Bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Hier, on avait une émission très actualité locale. Aujourd'hui, on va être très dans le provincial parce que c'était le discours de Christine Fréchette hier. C'est sa première période de questions ce matin. Et boboy, il a ramassé Paul Saint-Pierre Plamondon. La guerre est partie entre la CAQ et le PQ. J'aime ça!
Débat politique à venir et débat politique fort intéressant même à venir.
Exactement. Donc, évidemment, caucus avec Antonine Iaccarini. Lambert Drainville, qui était malade la semaine dernière, sera de retour avec nous. L'année Dufour va venir nous parler d'économie parce que grosse annonce chez Bombardier cet après-midi au niveau d'aviation. Et on va avoir Étienne-Alexandre Beauregard en studio qui était là hier à l'Assemblée nationale pour assister au discours de Christine Fréchette. Il connaît bien François Legault, il a rédigé ses discours, alors il va nous faire le petit comparatif entre la façon de faire Fréchette versus la façon de faire Legault. Ça va être très intéressant.
J'adore ça.
Ouais, exactement. Donc, puis on va terminer l'émission avec Marie Langlois, PDG de la SDC Montcalm. Hey, imagine-toi donc, hier on a dit le tunnel, on commence ça! À Québec pour le tramway. Mais là, les commerçants font « OK, mais attends une minute, ça va être quoi les travaux? Qu'est-ce qui se passe? Ma rue va-tu être bloquée? » Ils ont appris ça comme tout le monde à TV hier. Fait qu'on va parler de ça. Mais avant de commencer, Pascal Cévé, il y a de la circulation.
Oui, je voudrais juste dire que sur Laurentienne Sud, à la hauteur boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite est partiellement entravée parce qu'il y a un accident. Alors, ça fait en sorte que ça ralentit le secteur.
418-971-1021 pour communiquer avec nous. Vous le faites très bien les midis. On veut avoir votre opinion. Donc, lâchez-vous lousse comme à l'habitude. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est également la place pour aller écouter nos meilleurs moments. BLVD 102.1, c'est notre application sur App Store et Google Play Store. Et également, avec les haut-parleurs intelligents, vous êtes écoutés BLVD 102.1, puis ça apparaît dans nos oreilles.
Je m'étais noté la notification de circulation.
Oui.
Puis en le disant, je me voyons, c'est en arrière de nous.
Ben, c'est ça, un camion de pompiers.
Oui, là, on voit que les services d'urgence, ils sont. Donc, on est à 2 camions de pompiers, on est à 2-3 policiers. Donc, c'est vraiment un ralenti. Je pense qu'il faut faire attention. On voit mal quand on descend à cette hauteur-là.
Exactement. Puis la température n'est pas clémente. Là, la météo à l'heure actuelle, c'est 8 degrés avec de la pluie. Demain, ça sera 10 degrés, 60 % de possibilité d'averse. 13 degrés et 14 degrés à venir pour vendredi et samedi avec alternance de soleil et nuages. Hey, moi, tu sais, Pascal, la fin de semaine, quand je me lève, je fais mon petit café puis je dis toujours à mon haut-parleur intelligent BLVD. Écoutez BLVD 102.1. Pis c'est la voix de la personne qu'on va aller rejoindre au téléphone qui apparaît toujours avec la petite musique Rock and Chill. Audrey Pinchot, comment vas-tu?
Hey, salut, ça va super bien, vous autres?
Ça va bien. Audrey, t'es en direct du Grand McDonald's. Là, il est midi 3, il y a plein de monde dans leur char. Ils se disent, qu'est-ce que je mangerais bien à midi? Ben, c'est un Big Mac pour la bonne cause.
Hey, écoute, un Big Mac, mais pas juste ça, Jeff. Avant, il y a une époque où c'était seulement un Big Mac. Mais là, peu importe ce que vous commandez, frites, junior au poulet, breuvage, il y a des sous sur votre facture qui s'en vont directement à la maison Ronald McDonald. Il y en a, évidemment, aux familles là, d'enfants malades, entre autres. Puis, je peux pas être plus en direct. Je suis pile dans la cuisine en ce moment-là. Je suis littéralement à côté de Daisy, Alexandra, qui sont là, Audrey, qui travaille super fort, Gab Marino de la station Weekend 89, cette station de fer. Il est aux frites, il roule ça. J'en ai fait une coupe de McDonald's, Jeff, là. Puis pour vrai, j'ai jamais vu une équipe efficace de même.
C'est mais là, toi, tu fais quoi? Tu dis que t'es en cuisine, fait que tu mets la mayo, tu montes les burgers, tu...
Non, non, ben là, je vous parle en direct des derrière de la cuisine. Je me suis comme tassée, mais moi, je suis vraiment au service au volant en ce moment. Fait que je prépare les commandes, je les
allez
donne. Vous allez me voir la face.
Oui, bon,
puis là,
bon.
T'es à quel McDo exactement? Parce que là, il va y avoir plein d'auditeurs qui vont dire « Faut absolument que je me fasse donner mon McDo par Audrey Pinchot. »
À celui sur le Bourgneuf, le nouveau qui est à la place de l'ancien Krispy Kreme, carrément en face des galeries de la capitale. Il est accessible plus que jamais. Là.
Mais hein.
Donc, vous venez nous voir, l'équipe est en place. Puis, c'est toute la journée le Grand McDo. Nous autres, on est en place jusqu'à 13h. Mais vraiment, toute la journée, vous pouvez commander. Là, puis ça rentre dans tout ce qui est Grand McDo.
Moi, tu sais-tu quoi? J'ai décidé de faire un 2-pour-1. À matin, j'ai déjeuné avec un McMuffin bacon. Puis à soir, je vais souper avec un Big Mac après l'entraînement.
C'est bon, ça. Ben, moi, dès que je sors d'ici, je me pogne un gros dîner parce que je vais te dire qu'avoir avoir le nez dans la poutine, puis dans les juniors, puis dans les élus, on dirait, là.
Audrey Pinchot, merci infiniment pour ta contribution pour le Grand McDo. On le rappelle, hein, c'est des familles qui proviennent de l'extérieur, que les enfants sont atteints d'une maladie, souvent d'un cancer. Ben, au lieu de payer 200$ d'hôtel par soir, sont hébergés dans le manoir Ronald McDonald.
On connaît tout quelqu'un, Jeff, qui a eu besoin de la maison du manoir Ronald McDonald, puis je pense pas que c'est un sacrifice de venir manger un petit McDo aujourd'hui pour pouvoir donner des sous, on va t'entendre.
Oh non, pantoute, pantoute, c'est pas du tout un sacrifice, au contraire, c'est un très, très, très beau geste. Audrey, on t'entend dans le retour avec Denis et Véro.
Yes.
Excellent.
On vous attend, venez nous voir sur le McDo Le Bourgneuf.
Cool, salut Audrey, merci de nous avoir parlé.
Salut.
Audrey Pinchot, si vous voulez vous faire livrer votre Big Mac ou votre 6-10 McCroquette, ben là, au service à l'auto du
c'est
nouveau McDo Le Bourgneuf.
C'est tellement trippant pour vrai. Les auditeurs, mettons, qui s'en vont la voir, ils ont du fun. Audrey,
ben
elle
oui.
a du fun. Je veux dire, on fait des simulations avec l'intelligence artificielle en jouant à des affaires de casse-croûte.
Ouais.
Là, elle
c'est
fait
ça.
Pour une bonne cause.
Là, elle est là pour une bonne cause. Honnêtement, allez-y. Allez encourager les manoirs Ronald McDonald. C'est tellement important pour les familles, justement, qui sont éprouvées par la maladie de leur enfant. En manchette, Pascal Cévin, avant qu'on passe au caucus.
Bien, grosse nouvelle pour Québec, parce que là, officiellement, on met le gaz au fond pour l'accélération des travaux du tramway. Et c'est le ministre Benoît Charrette, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui a dit « On ferme la porte à toute éventualité de stopper le projet de tramway à Québec. On va de l'avant. C'est l'approbation finale du chantier. On attend ça pour l'an prochain. Mais c'est juste une formalité. On ne recule plus. » On avance. Ça a été une confirmation de fait. Donc, il faut qu'on en parle aujourd'hui assurément. Je pense que là, pour la Ville de Québec, c'en est pour beaucoup. Puis quand on parle des travaux, bien, les travaux d'excavation en prévision du tunnel pour faire passer le tramway sous la colline parlementaire, ça va débuter dans les prochaines semaines, plutôt qu'en 2027. Et ça a surpris bien des gens. Ça a aussi été annoncé hier par le ministère des Transports, montant de 55 millions de dollars qui est prévu dans l'enveloppe de 7,6 milliards de dollars. C'est donc autorisé dès maintenant par Québec. Et selon le gouvernement Fréchette, c'est un changement de plan dans l'échéancier qui va permettre de livrer au meilleur coût, dans les meilleurs délais, et ça dans un souci de gestion optimale des fonds publics. On n'est pas sans surprise que pour respect citoyen, ça fait aucun sens, cette annonce.
Oui, c'est clair. On va entendre Stéphane Lachan justement hier en conférence de presse.
Notre demande à tout prochain gouvernement, à tout aspirant au pouvoir provincial, on vous invite à stopper ce projet. On ne construit pas un projet de cette ampleur financé par des contribuables sans le consentement clair de celles et de ceux qui paient.
Ça faisait suite là, au sondage qu'on a parlé hier midi, là, justement, d'un taux de un taux en défaveur du projet là, très élevé. Là.
C'est-à-dire,
ouais, entre 60% et 76%, dépendamment de la fourchette de prix.
Oui. L'Autorité des marchés publics a ouvert une enquête sur le processus d'attribution du contrat lié au dossier santé numérique. C'est l'opposition officielle via Moncef Déragie qui a évoqué que de possibles irrégularités dans les appels d'offres ayant mené au choix de l'entreprise américaine Epic Systems a existé. Donc, on a mentionné qu'on a, on a à avoir dans tout ça et certainement qu'il n'y avait que deux fournisseurs dans le processus. On croit sincèrement qu'il fallait au moins trois fournisseurs pour la suite. Le DSN s'est estimé entre 1,5 et 3 milliards de dollars, je vous rappelle. C'est pour regrouper des centaines de systèmes informatiques pour centraliser les données médicales des patients. Et ça fait la une sur un autre pan aussi aujourd'hui. Le fait qu'on continue de dire qu'on n'est pas prêt. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui travaille directement dans le dossier santé numérique, un responsable qui est sorti et qui a communiqué avec Radio-Canada sous la plume de Thomas Gerbet ce matin. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de failles de cybersécurité et ça ne sera pas comblé avant le lancement du dossier le 9 mai prochain. Il faut reculer. Beaucoup ont pas mal pris la parole dans les médias dernièrement, mais là, c'est encore quelqu'un à l'intérieur du dossier qui s'est permis de le commenter.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini qui est avec nous, comme à l'habitude, du lundi au jeudi de midi à 12h30 dans Le Caucus sur les ondes de Boulevard 102.1. Anto, comment vas-tu?
Ça va super bien. Bon mercredi à vous.
Hey, bon mercredi. Anto, avant de passer au discours de Christine Fréchette, je veux te parler de deux choses que, justement, Pascal vient de parler dans ses nouvelles. La première chose, Stéphane Lachance, qui commande un sondage Palace hier, 1047 répondants dans la ville de Québec. Bon, le taux d'approbation pour le tramway n'est pas à son meilleur. Là. Il est à 36%, à son meilleur à 7,6 milliards de dollars. Mais là, le gouvernement décide d'avancer. La ville décide d'avancer. Stéphane Lachance sort pour dire « ça n'a pas d'allure, il faut écouter un contribuable, on devrait arrêter ce projet-là ». Je vais peut-être être à l'encontre de plusieurs de nos auditeurs et auditrices dans mon envolée éditoriale. Mais là, on peut-tu le réaliser, le mot du projet-là? On a élu Bruno Marchand comme maire de Québec. La CAQ est pour le projet, puis c'est eux autres qui dirigent. Puis on n'a pas de projet depuis 8 ans dans la Capitale-Nationale. On peut-tu juste dire, OK, c'est beau, là, on arrête la discussion, c'est fait, c'est parti, c'est sur les rails, puis on va vivre avec?
Ben, ton message est lancé.
Hein? As-tu de la
voilà,
ça?
Ton éditorial est fait.
Qu'on surveille les coûts, qu'on surveille si ça se passe bien dans les travaux. D'ailleurs, on va parler avec Marie Langlois tout à l'heure là-dessus, parce que je pense que ça a été un point raté de la ville et du gouvernement hier de dire « C'est bon, on fait le tunnel, mais les commerçants l'apprennent dans les médias. » Donc, qu'on fasse les communications sur le sens du monde, qu'on fasse les travaux sur le sens du monde, qu'on le fasse au meilleur coût possible, mais là, qu'on arrête de remettre en question le projet tout le temps. Je commence à être écœureux, là.
C'est écœuré d'entendre parler, là. On n'a pas fini d'en entendre parler, mais effectivement, ton message que tu lances aujourd'hui, c'est avançons. C'est
avançons, ça? Exactement. Avançons en surveillant pour être certain que ça se passe dans les meilleurs coups possibles et de la meilleure façon possible pour nos citoyens et nos commerçants. Marois Risky, ce matin, sur nos ondes, dans Marceau le matin, a dit ceci lorsque je lui ai demandé « C'est-tu un go ou un non-go pour DSN? »
Moi, en ce moment, je vais de l'avant pour la raison suivante. Si on n'y va pas, c'est qu'on n'ira pas.
Ben, okay, c'est comme le tramway, ça. Là, à un moment donné, il faut y aller là, avec le dossier santé numérique. Là, honnêtement, là-dessus, là, vous avez été plusieurs à me convaincre. Là, il y a eu Emmanuel Latraverse qui te remplaçait. Là, il y a eu toi. Il y a eu Christine Fréchette. Là, il y a Marois Risky. Il y a eu Sonia Bélanger, que j'ai écouté aussi en entrevue. Fait que là, vous êtes 5 femmes. Normalement, les femmes, vous êtes hésitantes. Là, je ne veux pas prendre les paroles de Bernard Drinville.
Réfléchie. intelligente.
Bravo, oui, Antonine.
Bon, c'est beau. Moi, je faisais mon Bernard, là. Laisse-moi donc caricaturer mon Bernard. Les femmes, vous êtes hésitantes. Non, c'est pas vrai. Non, exactement tous les beaux qualificatifs que tu viens de dire. Mais là, vous êtes 5 à me dire « Hey, Fortin, toi qui es le cow-boy d'habitude, qui dis « Ah ouais, ta barouette, qu'on les fasse, les projets. Comment ça, t'es sur le frein? Vas-y. » Fait que là, vous m'avez convaincu. On y va.
Ben, écoute, hein, ça sera pas parfait, là. Puis Pascal, en manchette, faisait référence à des gens qui lèvent le drapeau. Une transformation numérique comme celle-là, ça sera pas confortable, ce sera pas parfait. Là, l'autre élément qui s'est ajouté cette semaine, c'est qu'il y a une enquête de l'Autorité des marchés publics. Ça, c'est l'organe gouvernemental indépendant qui est responsable de surveiller l'octroi des contrats gouvernementaux. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une irrégularité dans le deuxième appel d'offres? L'AMP va enquêter là-dessus et je pense que c'est bien correct. On a des organes de surveillance comme ça au Québec, Vérificateur général, Autorité des marchés publics, Autorité des marchés financiers, l'UPAC. Servons-nous-en. Donc, c'est bien correct. Ça faisait une petite victoire politique aussi pour Monsef Deragy qui demandait cette enquête-là, effectivement. Puis Monsef Deragy qui est connu pour être très vocal sur ce genre de projet-là, il a fait un travail extraordinaire dans le dossier de Saclic. Donc, tantôt, tu nommais toutes les gens qui t'ont convaincu. Je pense aussi que tu avais été au départ là, un peu convaincu par Monsef Deragy, parce que c'est vrai que c'est un communicateur efficace et qu'on est frileux parce qu'on a vu des fiascos par le passé. Hey, je pense que c'est normal qu'on soit un peu traumatisé.
Puis on était traumatisé à la SAAQ. Alors là, c'est en santé. C'est sûr qu'on est un peu plus sur nos gardes.
C'est nos données médicales, évidemment, que c'est inquiétant. Et aussi, c'est que c'est un réseau qui est pas mal plus compliqué que celui de la SAAQ. Bon, la SAAQ, c'est quand même gros, là, faut le dire. On a beaucoup de conducteurs au Québec. Mais cela dit, le système de santé, c'est un mammouth. Et ce mammouth-là est pas dur, est pas facile à faire bouger.
Mais là, t'es-tu en train de me dire qu'on va avoir Monsef Deragy demain en entrevue aux alentours de 12h50 pour me parler justement de l'Autorité des marchés publics? Là, t'es-tu en train de me dire que demain, je vais être contre le lancement de samedi ou je vais être correct?
Ben écoute, tu décideras de ta propre opinion, mon cher Jeff, mais tu sais, à un moment donné, dans la vie aussi, c'est des balances d'inconvénients. Ce sera pas parfait, puis il faut aussi se rappeler qui joue quel rôle dans la grande pièce de théâtre politique. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé dans l'opposition pendant de nombreuses années. Quand tu es dans l'opposition, là, tu fesses dans le tas, tu critiques. C'est pas ton rôle de trouver des façons de faire la transformation numérique nécessairement. Bon, il faut que les oppositions soient constructives, qu'ils proposent des choses. Ils jouent son rôle. C'est aussi très utile en démocratie d'avoir des oppositions qui challengent le gouvernement. Mais je voudrais quand même qu'on garde en tête l'objectif de ce projet de transformation numérique. C'est pas évident, là, mais il faut arrêter d'utiliser le fax, puis le papier, puis le téléphone quand c'est pas nécessaire. Il faut moderniser notre système de santé. Puis Marois Risky le disait ce matin en entrevue, je l'ai écouté votre entrevue avec Marois Risky, et elle disait, c'est sûr que quand tu es un patient puis que tu te dis, oh, OK, je vais avoir des délais, il va y avoir des petits bugs alors que moi, je suis malade en ce moment, hey, j'ai de l'empathie fois 1000. Mais il faut regarder le gain en efficacité aussi sur le long terme. On le sait, c'est désagréable changer de système, là. C'est pas évident. Puis Thomas Gerbet et les autres journalistes qui font un excellent travail vont trouver des gens, des témoignages, il va en avoir d'autres, là. Il faut être prêt à ça. Mais écoute, Jeff, je suis contente de voir que tu es en train de te joindre aux gens qui disent « OK, ça va pas être agréable, mais il faut qu'on le fasse. »
Vous m'avez convaincu. 5 femmes m'ont convaincu. Val, si t'es à l'écoute, ça en prend 5 pour me convaincre.
Hey, Colin.
Attends, c'est une blague. Une blague.
Je suis sûr que tu fais tout ce que Val veut de toute façon.
Ouais,
c'est je essayer de nous faire croire le contraire.
Exactement, je suis pas mal.
Souvent, quand ils le disent, hein, c'est là où on sait qu'on a.
Oui,
en
c'est ça, vous avez tout compris. Hey, chérie, tu ferais ça? Oui, pas de problème.
Val,
c'est pas mal. C'est pas mal.
Val, il dit, t'es peut-être dû pour une petite coupe de cheveux. Une heure après, il est rasé comme un canin.
C'est pas mal mon tempérament. Hey, merci de réagir au 418-971-1021. Vous avez été plusieurs à dire, Jeff, t'as bien raison. Avoir et avançons avec le tramway. Surveillons, mais avançons. C'est le temps qu'on fasse de quoi en capitale nationale. Ben merci pour vos commentaires. T'as pensé quoi du discours de Christine Fréchette qui s'est présentée? Moi, c'est sans surprise, je trouve. Elle s'est présentée en mettant des priorités qu'on avait déjà entendues de l'avant. Elle veut être très efficace, c'est normal. Elle a 5 semaines pour prouver à la province en entier qu'elle pourrait être la prochaine première ministre après les élections du 2 octobre. Écoute, c'est un discours somme toute efficace. Moi, c'est le mot que j'ai en tête.
Oui, j'ai trouvé que c'était un discours qui était vraiment à sa couleur aussi.
Ouais.
Et c'est sûr que stratégiquement, Christine Fréchette essaie de prendre des distances par rapport à François Legault, on peut comprendre, mais au-delà de ça, au-delà de la stratégie politique, c'était un ton qui était différent. Elle avait invité beaucoup de gens dans les tribunes aussi du Salon Rouge. Je trouvais que ça mettait un visage sur des mesures, sur des politiques. Par exemple, il y avait un jeune couple qui avait acquis une propriété cette année. Puis elle disait, voici un couple qui va bénéficier du remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs cette année. Il y avait un entrepreneur de Lillet qui a dû diversifier ses marchés à la suite de la crise des tarifs avec les États-Unis. Donc, elle avait, je trouvais que c'est une bonne stratégie de communication d'humaniser un petit peu les politiques. Elle a passé aussi une partie de son discours au début à parler des femmes qui brisent les plafonds de verre. Elle a parlé beaucoup de d'autres femmes. Et je me disais, ah, tu sais, c'est pas un discours qui est « je me moi ». Elle faisait de la place à d'autres personnes. Elle a notamment salué Sophie Thibault, des politiciennes qui ont été les premières à emprunter certains sentiers. J'ai trouvé ça intéressant et différent de ce qu'on avait entendu des derniers premiers ministres du Québec. Sur les priorités, on voit un petit changement aussi. C'est que les priorités de François Legault, c'était économie, santé, éducation, identité et environnement. Ça faisait toujours un peu sourciller les écologistes. Là, on est sur des choses plus transversales un peu, mais très près des enjeux actuels, à mon humble avis, c'est-à-dire service public. On le sait qu'on a un enjeu de service, pas la santé ou l'éducation. On a un défi de service public. Infrastructure, énorme défi. Infrastructure vieillissante partout au Québec, puis on n'a pas d'argent. Fait que là, il faut trouver des solutions. Aussi, la question du coût de la vie. Parce que l'économie, oui, c'est une autre priorité, mais le coût de la vie, c'est notre portefeuille, puis la macroéconomie, c'est pas exactement la même chose.
En effet.
Je pense que c'est la préoccupation numéro un de tout le monde en ce moment. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des petites différences comme ça qui étaient intéressantes, mais en même temps, on n'était pas incohérent avec le passé de la CAQ. Donc, elle avait bien dosé. C'est un jeu d'équilibriste. Elle l'a bien fait. Maintenant, est-ce que ça révolutionne tout, puis est-ce qu'elle va pogner 25% de points dans les sondages demain matin? Pas nécessairement, mais je pense que c'est une opération qui était somme toute réussie pour elle.
Ce matin, c'était sa première période des questions, puis okay, on a appris qu'elle savait boxer. Je vous laisse entendre cet extrait avec Paul Saint-Pierre Plamondon.
Moi, je demande plutôt aux Québécois de faire appel à leur mémoire. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Est-ce qu'elle est prête à prendre ses responsabilités?
La réponse de la première ministre.
Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que le collègue chef du troisième groupe de l'opposition se lève aujourd'hui, alors qu'il n'a pas daigné le faire hier, quand il était question de protéger les femmes de la violence conjugale.
Qu'est-ce que c'est passé là? Est-ce que c'est démagogue? Oublié de se lever?
En fait, hier, Paul Saint-Pierre Plamondon avait décidé de ne pas applaudir autrement qu'au début. Là, okay? Parce qu'il faut le dire, les applaudissements à l'Assemblée nationale, bon, ils ont été bannis pendant les périodes de questions, parce que premièrement, on perdait un temps fou, puis le gouvernement faisait exprès pour que ça prenne du temps pour avoir moins de questions. Mais pendant les discours, c'est encore présent. Et hier, on aurait tous gagné 30 minutes de notre journée en passant s'il y avait un petit peu moins d'applaudissements. Mais bon, ça, c'est mon éditorial de filles pressées. PSPP, c'est pas contre les femmes là, qui n'ont pas applaudi. C'est tout simplement qu'il avait pris cette décision-là de ne pas applaudir à chaque fois que le gouvernement, son adversaire politique, allait proposer quelque chose. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire preuve d'un peu de flexibilité et de gros bon sens en entendant cette affaire-là sur la loi de Claire et les féminicides, parce que, évidemment, ça faisait un petit peu étrange, mais vous connaissez un petit peu le chef du PQ, il applique certains principes et il garde ces principes-là jusqu'au bout. J'ajoute aussi que, pendant le discours de Mme Fréchette, il y a un libéral, je ne sais pas qui, je n'étais pas en chambre, qui a interrompu le discours à un moment donné, parce que quand Mme Fréchette parlait des femmes qui ont brisé des plafonds de verre, il y a un libéral qui trouvait que dans la liste, il aurait dû avoir Claire Cosgrain-Kirkland, première députée, qui est une députée libérale.
Ouais, là, à un moment donné, on ne peut pas mettre tout le monde.
Ben, interromps pas la première ministre pendant qu'elle parle. Hey, après ça, tu pourrais le dire sur Twitter, tu peux en parler en scrum en après.
Je reviens sur PSPP parce que c'est peut-être moi, mais je trouve ça majeur. Et je te fais entendre Marois Risky ce matin, justement, quand on lui a demandé c'était quoi le moment fort du discours de Christine Fréchette? Elle était sur nos ondes dans Marceau le matin.
Dans tout ce que j'ai entendu hier dans le discours, le moment pour moi qui a été le plus important, c'est lorsqu'on a parlé de la loi Gaby Renault et que dans nos tribunes, on avait la sœur Rachel. Mm-hmm. Très émue. Et la première ministre, Mme Fréchette, se tourne vers elle et lui dit de façon très affirmative, nous allons l'adopter. Et là, les élus, nous nous levons. On applaudit tous et on se tourne vers Rachel.
T'as un moment fort en émotion. Et voici ce que PSPP a répondu aux journalistes ce matin.
La première ministre vient d'inférer qu'on était contre la protection des femmes, basée sur le fait qu'on se lève ou non dans un discours, alors qu'on se lève jamais dans le discours de la première ministre. C'était le cas pour M. Legault. Donc, on est devant de la base politique qui n'est pas honnête sur le plan intellectuel. Puis moi, tant que les gens ont compris que notre soutien pour la protection des femmes et la prévention des féminicides, elle a toujours été là, puis il est entier.
Je suis complètement en désaccord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu te présentes pour être premier ministre, je m'attends à ce que tu aies du jugement. Et le jugement que tu aurais dû avoir, c'est aller à l'encontre de ta petite règle que tu t'es donnée de ne pas te lever, puis
c'est
de
ça.
Saisir le moment, puis de dire « Hey! » C'est sûrement un des moments forts dans l'histoire de Québec pour contrer la violence envers les femmes. Mais moi, parce que je fais mon petit anant qui dit « j'applaudirai pas puis je me lèverai pas pour Christine Fréchette, je me lève pas pour ça », c'est épouvantable pour moi ce qui a été fait.
Ben c'est ça. En fait, tu l'as bien dit, c'est « sans le moment ». Ressent autour
exactement.
De toi ce qui se passe.
Size donc, la chambre, là, the room, là, size the room.
Ben c'est ça, puis c'est un peu rigide, en fait. Il fait preuve de rigidité. Puis on le sait que ça fait un peu partie de son tempérament de chef, en tout cas de ce qu'on voit. Là, on ne le connaît pas nécessairement dans la vie de tous les jours, comment il est en dehors de la vie politique, mais c'est comme j'ai raison, puis là, c'est un principe, là, ça, c'est mon principe, mais... Comme tu dis, « fill the room », la sœur de Gaby Renault qui était dans les tribunes, je pense qu'il aurait pu faire une petite exception à cette règle qui s'est donnée. Maintenant, de dire, que la CAQ va dire qu'ils sont contre les femmes, à un moment donné.
Mais ça, c'est démagogue.
Clairement, c'est pas ça que ça voulait dire.
Non, ça, c'est démagogue. Là.
C'est ça. Ah, c'est la joute politique, on aime ça.
En effet, on m'a dit « read the room » et puis continuez à réagir. Là, justement, vous êtes plusieurs à avoir réagi sur DSN et sur le tramway. On fera là, un petit suivi là, à la suite du caucus. Ça, c'est très intéressant de vous... La clause dérogatoire, Haroun Bouazizi, toi, qui a proposé quoi? Que c'est pas grave si on se fait arrêter nos lois canadiennes? Là. J'ai pas trop compris cette histoire-là. Là.
Ben, en fait, c'est qu'il y a un débat en ce moment qui est d'ailleurs devant la Cour suprême du Canada sur l'usage de la clause dérogatoire. Il y a des gens qui trouvent qu'au Québec, on abuse de déroger à la Charte des droits et libertés canadienne. On peut aussi déroger à la Charte québécoise en passant, mais là, ça, c'est un peu complexe, fait que je vous épargne tous les détails techniques. Mais il y a vraiment des gens qui trouvent que la Charte est là pour nous protéger. et pour nous protéger un peu contre nos politiciens et contre les lois qui pourraient être abusives. Parce que dans le fond, quand on déroge à la Charte des droits, c'est que, ben, en quelque sorte, on dit « bon, ben ma loi, elle va affecter les droits individuels de certaines personnes ». Souvent, c'est justifié par des droits plus collectifs. Hein. Au Québec, on a cette notion-là qui est un peu moins présente dans le reste du Canada. Et on va déroger à certains droits, notamment, des fois, le droit de religion. Quand on parle de la loi sur la laïcité, on a décidé comme société, on a élu un gouvernement qui considère que le droit à la religion s'arrête où le droit collectif à la laïcité commence. Et bon, tout ça fait l'objet de contestations dans les tribunaux. Et en ce moment, il n'y a pas seulement le Québec qui défend l'usage de cette clause dérogatoire pour pouvoir déroger à la Charte des droits. Il y a d'autres provinces canadiennes aussi qui disent, écoutez, ça, c'est une question d'autonomie des provinces et c'est ça le compromis fédéral. C'est nous, on n'a pas signé la Constitution du Québec, mais les autres provinces qui y ont adhéré, même s'ils sont d'accord avec la Constitution, disent, quand on légifère dans nos juridictions, on a le droit, ça fait partie du compromis fédéral, de déroger à la Charte des droits et libertés dans nos juridictions. Et là, QS arrive aujourd'hui et il reprend en fait une partie de l'argumentaire de l'avocat de la poursuite de la FAE face à la Cour suprême, justement, qui a plaidé qu'on était à risque de dérive autoritaire. C'était ça. Imaginez qu'un Trump arrive au Québec, il faut qu'on limite l'usage de la clause dérogatoire pour protéger les droits des gens. Honnêtement, le Québec qui demande à Ottawa moins de pouvoir,
C'est comme... Ben c'est ça, ça ne fonctionne pas pantoute. Là, Québec solidaire est un parti souverainiste, oui. Mais là, on va s'enlever des pouvoirs.
Mais c'est comme un peu, tu sais, si QS s'était dit, bon, là, on ne gagnera pas les élections, on ne sera pas au pouvoir, donc on va essayer de limiter le pouvoir des méchants partis de droite qui nous gouvernent depuis les dernières années. Est-ce qu'il peut avoir une discussion, tu sais, je pense qu'on peut avoir des discussions saines sur le partage des pouvoirs dans une société, parce que c'est-tu au tribunal de trancher certaines choses, oui, non, est-ce qu'un gouvernement qui est élu, pas par la majorité des gens, mais a tous les droits, tous les pouvoirs, bon, il n'y a pas de problème. Mais de dire, on va limiter l'usage de la clause dérogatoire, c'est vraiment comme affaiblir le Québec et limiter sa possibilité d'agir dans ses juridictions. Puis ça, c'est sur le fond des choses. Maintenant, sur la forme, veux-tu bien me dire qu'est-ce que QS a gagné à 5 mois des élections à aller gossailler sur des affaires de clause dérogatoire?
Avec un député qui ne se représentera même pas.
Mais beaucoup de
avec un député qui ne se représente pas et qui, faut le dire, là, pas une grosse cote d'amour là, depuis ses propos sur ses collègues à l'Assemblée nationale, quand il avait dit que l'Assemblée nationale, c'était raciste et qu'il vivait du racisme à tous les jours à l'Assemblée nationale. Donc, honnêtement, c'est quoi la stratégie politique, là?
Bien, beaucoup critiquent ça en disant qu'ils ne se penchent pas sur les bons enjeux, les vrais enjeux, les enjeux forts. Puis je pense qu'on avait parlé même avec toi dans le caucus, mais mettons cet automne, là, puis ça perdure ça. On dirait que c'est-tu pour être différent, pour essayer d'attirer l'attention?
Non, c'est qu'ils ont un petit côté aussi j'ai raison, donc il faut que je fasse. Okay? En politique, c'est correct là, d'avoir raison dans leur esprit. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec eux, mais eux, dans leur tête, ils ont raison, ils protègent les droits des gens, donc il faut y aller. Ça n'a aucun avantage politique en ce moment d'aller faire ça. Hier, Christine Fréchette a fait un cadeau à QS. Parce qu'elle a parlé d'une économie de propriétaire, puis que les gens, il fallait qu'ils accèdent à la propriété. Elle n'a jamais parlé des locataires. Bien, ça, c'est l'électorat de QS. C'est un électorat dans lequel il y a encore de la place pour de la croissance. Parler de crise du logement. Parler d'environnement. Il n'y a plus un parti qui parle d'environnement. Je m'excuse, mais la crise climatique, ça existe encore. Bon, QS n'a pas toujours été pragmatique dans son approche, mais il y a quand même un terrain à occuper. Là. Ça inquiète quand même une génération de gens, là, ce qui se passe au niveau environnemental. Le coût de la vie, on en parlait. Pouvez-vous focusser, s'il vous plaît, sur des enjeux qui sont les vôtres, qui sont des terrains à occuper, puis qui intéressent le monde? Tu sais, l'encadrement de la clause dérogatoire, je ne dis pas que ce n'est pas important, là, mais je veux dire, on est en préélection. Là. Come on!
Je termine ce caucus avec justement une parole d'Éric par texto qui dit ben c'est aussi simple que ça. QS s'acharne à demeurer dans le champ gauche. Antonine Iaccarini, c'est très apprécié. Le caucus du lundi au jeudi de midi à midi et demi. On se reparle demain. La semaine prochaine, tu seras de retour en studio.
Oui, j'ai très hâte.
On a hâte de te voir, nous autres aussi. On s'ennuie même si on se parle par Zoom. Salut!
Oui, bye.
Salut! Antonine Iaccarini qui fait entendre sur nos ondes. à chaque lundi au jeudi de midi à 12h30 dans le caucus sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Elle fait également des chroniques dans Gravel, dans Le Retour, comme elle a fait hier. Pascal, on se fait un petit tour d'actualité après la pause.
Sa faute.
Alex Laramé va venir s'installer. On va parler Canadien Sabre qui commence ce soir. Hé, hey, t'es excité?
Honnêtement, vous commencez à m'embarquer.
Ah, oui.
Mais par le fait que vous remplissez tout les restaurants de la ville.
J'ai tellement
hâte. Des rassemblements familiaux en pleine semaine.
Oui, je vais même m'entraîner à soir. Je vais aller chercher deux petits Big Mac, un pour moi, un pour mon Edou qui va avoir joué au foot.
Pour le Grand McDo.
Puis pour le Grand McDo, on s'assoit et on regarde le match. Ça va être extraordinaire. Et on va également avoir notre chroniqueuse économique, Lani Dufour, qui va venir s'installer en studio avec nous. On va parler de deux sujets très intéressants, à mon avis, avec Lani. Premièrement, une grosse annonce en termes d'aviation. Donc, on va annoncer plus de 150 avions à l'usine Bombardier à Mirabel. Ça va se faire cet après-midi avec Mark Carney et Christine Fréchette. Et également, Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales, qui a dit « Hey, savez-vous quoi? L'avenir passerait par les maisons préfabriquées. » Je vais entendre Lani là-dessus. C'est une bonne idée, c'est une moins bonne idée. Elle va nous jaser de ceci après la courte pause à Boulevard 101. Exactement, midi 37 minutes sur Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. Gravel dans le retour qui va suivre à 14h, Marceau le soir à 18h. Et on reprend notre programmation par là à compter de 6h le matin avec Marceau le matin. Jeff Fortin, Max Larouche pour l'accompagner. Le Point de Max avec Catherine Bachand à compter de 10h. Hey Pascal, c'est le fun quand les auditeurs réagissent. Et puis là, check bien ça. Check bien, OK? On va avoir de quoi là, de spécial.
Okay.
On va tout de suite mettre ça en onde parce que c'est Audrey Pinchot en direct du Grand McDonald's. Comment ça va?
Hello!
Hey, dis-moi donc, on est-tu vraiment en train de battre un record, là?
Mais là, c'est ça, là, parce que j'entendais la gang utiliser « Hey, on est sur le bord de battre un record, go la gang, go la gang! » Je dis « Voyons, faut que je vise au monde de venir! »
Ben, mais hein?
Venez-vous au McDo sur le Bourgneuf!
McDo, le Bourgneuf, Grand McDo, vous achetez n'importe quoi, c'est plus juste un Big Mac, puis Hawaï Don pour le manoir Ronald McDonald, qui, on le répète, prend soin des familles qui vivent avec un enfant qui est à l'hôpital, qui est malade ou qui a un cancer ou quelque chose comme ça. C'est tellement une cause extraordinaire. Hey.
On va se le dire, c'est pas une punition de venir passer prendre de quoi. Là. Même si c'est un café, un breuvage, une limonade, n'importe quoi à manger, tout y passe. McFlurry, gâtez-vous.
Lisez-vous-en,
l'équipe est en feu en ce moment. On bat des temps records aussi, fait que ça se passe super bien. Mais il reste, moi, je suis encore là, 22 minutes. Là.
Okay.
J'aimerais vraiment ça qu'on batte le record dans l'heure.
Fait que ça veut dire on a 22 minutes pour battre ce record-là pour que toi, tu puisses fêter avec Gab Marino. Mais là, il y a quelque chose, Gab Marino, notre collègue de week-end, vous entendez aussi à Boulevard. Il y a quelque chose, par exemple, Audrey? Ils vont-tu vous engager, vu que vous êtes performant de même? On vous perd-tu à la radio, puis vous devenez les kingpins du McDo? Qu'est-ce qui se passe?
Tu dis ça, puis chaque année, chaque fois que je fais le McDo, Jeff, là, on dirait que je retrouve une fille mec copine. J'ai vraiment plaisir à faire ça. Pour vrai, ça, c'est niaiseux, mais c'est vraiment le fun.
Hey, ma mec copine préférée. On s'en parle.
Yes, on s'en rejoint. C'est ça, là.
Cool, à 2h. Hey, viens, viens faire un petit tour en studio quand on reviendra après pour nous dire si t'as battu le record.
Parfait.
Excellent. Salut, Audrey Pinchot.
Salut la gang,
bye-bye. Audrey, en direct du McDo Le Bourgneuf. On le répète, c'est le Grand McDo. Allez-y, allez contribuer à cette cause exceptionnelle. Moi, j'ai un couple d'amis qui ont vécu là, le tout. Là, un enfant qui a eu la leucémie. Ça en est sorti
ouch.
Vivant. Il est rendu à quoi? François, il doit être rendu à 15 ans. Mais ça me semble qu'il y en a plus jeune qu'Edouard.
Hey, ça doit être une épreuve épouvantable.
L'enfer pendant 3 ans, des traitements,
épouvantable.
Des
l'arrêt
semaines
au travail.
À l'hôpital, l'arrêt
comment
au travail.
On s'arrange,
ah, ouais.
Le financier. Puis ça, ça n'a rien à voir quand on le sait que les motifs, c'est encore pire. Là. Perdre
exactement.
Son enfant, c'est quelque chose qui est surréaliste
ah,
pour
ouais.
un parent.
Hey, Vicky qui est enceinte du 3e enfant.
Ah,
ils ont vécu ça avec un accouchement au travers. Ah, c'est...
Quand c'est supposé être beau. Mais
ben c'est ça,
c'est...
fait que là t'es ben
ah,
exactement. Je me souviens qu'ils viennent manger à la maison, puis là justement on jase, puis Béatrice à ce moment-là, là, quoi peut-être 7 ou 8 mois, t'sais. Puis elle a le gros sourire, là, un bébé de 7 ou 8 mois, là, on la met puis elle marche à quatre pattes dans la trampoline, puis là les gars jouent avec tout le kit, et je me souviens qu'elle me regarde les yeux dans l'eau puis elle dit, je me sens coupable d'être heureuse.
Hey, ça vient vraiment chercher.
C'est fou. Hein? Là j'ai dit, je
comprends. Hey, j'ai les larmes aux yeux.
Ben je sais, je le vois.
Ouais.
Non c'est ça, fait que c'était là, j'ai comme fait aïe, aïe, aïe. Fait que c'est pour ça que quand on parle du Grand McDo,
c'est comme festif
fois...
pour les consommateurs. Là.
Mais moi, à chaque fois, je pense
aux parents.
À Vicky,
ouais.
Je pense au petit François. Fait que c'est ça. Puis je pense à eux autres, puis je me dis Yann, je cherchais le nom du père, Yann. Et puis je me dis, hé, tabarouette, ouais, c'est pour eux autres finalement qu'on fait ça. Fait que ça va à peine, s'il vous plaît. Bon, je te laisse reprendre tes émotions un peu, puis je parle de texto.
Alors, c'est vraiment... C'est correct, c'est juste ça m'a saisi parce que j'en dirais que j'ai ressenti la scène.
Ben
oui. Jamais à la hauteur de cette maman-là.
Hey, je te le raconte, moi, puis regarde-moi le poil, lever ses bras, parce que je leur vis la scène.
Puis tu sais, dans la famille, ça déchire. Fait que pour vrai, ils sont sur le Bourgneuf, nos collègues, en ce moment, au McDo. Faut battre le record on pense à...
Allez-y, allons battre le record pour le grand McDo, pour les gens. Quand on a des textos, justement, qui rentrent... Julie, Audrey va faire quoi si on lui demande une sauce supplémentaire? Elle va vous la donner. Voyons donc. Voyons donc. C'est clair, 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 clair qu'elle va vous la donner. Puis en passant, vous avez été plusieurs à réagir, que ce soit sur santé numérique. Donc, plusieurs personnes qui disent hey, Chris, c'est un gros mammouth. Comment ça qu'on prend ça juste d'une bouchée? Ben non, on le prend pas juste d'une bouchée. Hein. C'est Montréal, c'est Mauricie, c'est seulement un endroit spécifique à Montréal. C'est vraiment un projet pilote. Donc, c'est pour ça qu'on se sent un petit peu plus en confiance, mais je le dis, un petit peu plus en confiance. Il y a des gens aussi qui me demandent « Hey, c'est quoi, Jeff? Pourquoi tu dis surveiller le tramway? » Ben c'est justement, c'est juste de surveiller comment les travaux vont aller, comment les coûts vont monter ou rester similaires. Je comprends très bien que si on arrive à la fin à 11 milliards, il va être fait, puis ça va être 11 milliards. Mais on a dans notre société un droit de vote, je pense, Pascal. Fait qu'on les sacrera dehors à coups de pied dans les fesses si ça sent 11 milliards. Ça a-tu de l'allure, ça? C'est une bonne idée, ça? Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Mais je donnerais pas le coup de pied dans les fesses, mais l'image est là.
C'est ça, l'image est là. Exactement. Pascal en manchette avant qu'on jase d'hockey.
Oui, mais en fait, c'est en nouvelle, hein? Donc, on a un bulletin assez étoffé, Jeff, parce qu'on a du stock. Aujourd'hui, c'est la première période de questions comme première ministre pour Christine Fréchette. On est à l'Assemblée nationale. Puis c'est sûr qu'elle est talonnée sur le bilan de François Legault. On s'en attendait. Donc, l'opposition fait front commun. On rappelle qu'on est après François Legault, puis il ne faut pas oublier les 8 dernières années caquistes, parce que c'est sûr que ça donne le ton pour les élections qui s'en viennent. Hein? Mm-hmm. Et ça, cette campagne électorale-là sera très difficile pour la CAQ qui a souffert de multiples décisions qui ont été défavorables pour les électeurs. Et on voit Christine Fréchette essayer de redorer l'image du parti. Les partis d'opposition n'ont pas oublié.
Non, vraiment pas.
Accélération des travaux du tramway, c'est pas mal la nouvelle pour Québec. Aujourd'hui, on ne recule pas, on ne peut plus reculer. Et ce sont les paroles du nouveau ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charrette. Donc, lui, il a fermé la porte à toute possibilité de stopper le projet de tramway. On y va, on avance, et même qu'on apprenait qu'il y a des travaux d'excavation en prévision du tunnel pour faire passer le tramway sous la colline parlementaire qui vont débuter dans les prochaines semaines plutôt qu'en 2027. Et ça, ça a été annoncé hier par le ministère des Transports, montant de 55 millions de dollars. C'est dans l'enveloppe du 7,6 milliards de dollars. C'est donc autorisé dès maintenant par Québec. Le gouvernement Fréchette dit que c'est un changement de plan dans l'échéancier qui permet de livrer au meilleur coût dans les meilleurs délais, et ça dans un souci de gestion optimale des fonds publics. C'est sûr que ça fait réagir, Jeff, aujourd'hui.
OK, oui.
Également dans l'actualité, un dossier important, Québec veut des quartiers de maisons mobiles 4.0. On nomme ça comme ça.
Ouais.
Mais c'est pour le fléau de l'accès à la propriété. Et c'est le ministre des Affaires municipales, tout nouveau, Samuel Poulin, bien connu dans les rangs de la CAQ, par contre, qui veut multiplier la construction de nouveaux quartiers qui seraient destinés aux premiers acheteurs et qui seraient majoritairement, sinon exclusivement, composés de maisons unifamiliales préfabriquées. Un peu comme des plains-pieds. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maisons mobiles. Et c'est une entrevue qu'il a donnée, Samuel Poulin, il y a 35 ans. Puis, il déplore être dans une génération qui n'a pas eu les mêmes outils que celle auparavant. Enfant happé lundi à Beauport, Daniel Robitaille, 67 ans. Il reste détenu en attendant son retour en cour. On a appris que les deux chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions ont été déposés contre lui hier. L'homme s'est plaint d'être en prison parce qu'il y a un gars qui l'a coupé sur la route, selon ses dires.
Oui, selon ses dires. C'était très chaotique, hein, le juge a été obligé de le remettre à sa place, lui dire qu'à ce moment-ci de la procédure, c'était pas le moment de prendre la parole. Ça a été chaotique.
Il n'était pas en procès.
Il se tenait après le mur, disait qu'il manquait sa morphine, il y avait mal partout.
Il avait l'air désorganisé, fâché. Vraiment. Il dit « La loi est-tu bien faite? Hein? » Ironiquement.
Oui, « La loi est-tu bien faite? Hein? » Je me suis fait couper puis je me retrouve en prison. Ouais, c'est parce qu'il y a un petit gars qui a un traumatisme crânien à l'hôpital présentement.
Puis on rapporte dans le Journal de Québec que le casier judiciaire de Robitaille, ben, c'est une cinquantaine de dossiers accumulés principalement dans les années 80 et 90, là, souvent dans des affaires liées au trafic de drogue. C'est sûr, ça fait circuler en ce moment là, beaucoup d'informations.
Clairement.
C'est émotif pour notre ville de Québec.
Okay,
Nouvelle image de marque pour Santé Québec. C'est fini les CIUS, c'est fini les CIS. On apprenait ça sous la plume de Nicolas Lachance au Journal de Québec. C'est une opération qui lie un changement d'image de marque pour la nouvelle organisation. Donc, on veut rendre l'expérience des patients plus fluide en modifiant son image de marque.
Oui,
ça, c'est ma nouvelle.
Non, non, mais c'est clair, ça a toujours fonctionné. Tu sais, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne change pas les procédures sur le plancher, mais on change le nom.
Les commissions scolaires qui sont devenues des centres de services scolaires.
Eh bien oui, c'est vrai. Soudainement, le milieu de l'éducation est devenu plus proactif.
Ça a roulé. On parle pas qu'il y a trop de chefs pour... Hein?
418-971-1021, les enseignants qui sont à l'écoute, qui ont vécu la transformation commission scolaire à centre de services scolaires.
Êtes-vous un enseignant 2.0?
Oui, c'est ça. Êtes-vous un enseignant 2.0? Dites-nous, écrivez-nous et dites-nous comment ça va bien dans le système de l'éducation.
Va falloir nous convaincre sur le fait que l'image de marque va nous aider. Les fonctionnaires sont ramenés à l'ordre par la ministre Duranceau, puis
ouais,
pas à peu près. Ils se sont fait dire, on vous ramène au bureau pour que vous comportiez comme il faut. Puis c'est ça qu'elle a dit,
oui.
La présidente du Conseil du Trésor.
Dans le fond, une autre façon de dire, vous pognez le cul à la maison, puis là, on va vous checker.
Puis elle dit, là, vous chialez qu'avant, on parlait au téléphone. Là, on parle sur Teams, puis c'est comme ça que ça va se passer. Elle a tout de même admis faire des vérifications pour s'assurer qu'on ait toutes les antennes gouvernementales, régionales, avec les équipements qu'on a besoin pour travailler. Mais le reste est de la ligne dure. Là. On est allé très fort. Je pense qu'on a assez parlé de ça, du télétravail. Retour au bureau, c'est 3 jours par semaine. C'est une demande qui est raisonnable. Quand on regarde ailleurs ce qui se passe au Canada, dans le privé, je pense qu'il faut en revenir. Elle était prompte avec les journalistes.
Beaucoup d'enseignants, d'enseignantes qui nous écrivent. Puis là, il y en a un ici qui me fait très rire. L'abolition des commissions scolaires pour les centres de services était supposée redonner aux écoles des pouvoirs. On en a moins qu'avant, mais hein, c'est centralisé depuis le passage de Bernard Drainville. Oh my God!
C'est un point qui se vaut. Hein? L'Autorité des marchés publics a ouvert une enquête sur le processus d'attribution du contrat qui est lié au dossier santé numérique. On vient d'en parler avec Antonine Iaccarini dans le caucus. Mais là-dedans, on mentionne, puis c'est en point de presse, que ça a été fait par l'opposition officielle via Monsef Deraji, qu'il y a des possibles irrégularités dans les appels d'offres qui ont mené au choix de l'entreprise américaine Epic Systems pour le DSN. Entre autres, on dit qu'on aurait dû avoir au moins 3 fournisseurs sur la liste et non seulement 2 dans le processus. Le DSN, je vous rappelle, c'est estimé entre 1,5 et 3 milliards de dollars. C'est pour regrouper des centaines de systèmes informatiques et centraliser les données médicales des patients. Puis encore aujourd'hui, ça aussi, c'est critiqué parce qu'il y a des gens du terrain, entre autres quelqu'un qui est responsable du dossier santé numérique, qui est allé parler à Radio-Canada en disant « on n'est pas prêt, des mesures de cybersécurité du DSN sont retardées après le lancement. » Puis ça ne devrait pas avoir lieu. Je vous rappelle, c'est le 9 mai, ce lancement du DSN.
Exactement. Et on va avoir Monsef Deraji en entrevue. J'ai comme mélangé
ça
deux
se vaut.
Mots.
Non, mais Monsef réagit, ça se vaut.
Oui, il a réagi, en effet. Demain à 12h50 sur les ondes d'On en jase.
On en jase. Le show que tu commences au but 101.
Bon. Là, Alex Laramé va me défendre. Pas moyen de faire une erreur en studio quand des femmes sont là. On dit Monsef.
Je trouve ça un excellent lapsus.
Là, Lanny Dufour arrive, notre chroniqueuse économique, directrice des affaires gouvernementales pour Catapulte Communication, puis elle rit de moi. Il n'y a plus moyen de faire une erreur dans cette société-là.
En fait, c'est qu'on la capte. Mais c'est un très beau lapsus.
Je le sais, je riais. Alex Laramé, on me fait plaisir. Là, on va avoir une vraie discussion de gars. OK, les filles? On va jaser de sport, on va jaser de hockey parce que le hockey, c'est notre affaire à nous autres, ça, Alex Laramé.
Ça va, Yann Marceau?
Non, le hockey, c'est pour tout le monde. On accepte tout le monde. Tout le monde est bienvenu dans la conversation.
Ah, il est trop smart, notre Alex Laramé. Alex, dis-moi donc, ça commence ce soir. Canadien Sabre. Est-ce que tu t'attends à voir Caulfield avec Slafkovský et Suzuki pour commencer le match? Moi, je pense que oui. Je pense que Martin Saint-Louis leur donne une deuxième chance.
Ben, à l'entraînement, c'est ce qu'on a vu dans les combinaisons de trio. Saint-Louis qui revenait un peu avec l'alignement là, qu'on a été habitué là, avec un Evans sur la deuxième ligne avec Demidov et Newhook, Dano, Texier, Anderson, puis potentiellement Bolduc, Dak. Là, ça reste à voir qui va être le 12e attaquant, si on peut dire, parce que ce matin, Joe Veleno n'était pas avec les réservistes.
Oh!
Donc, ça laisse présager qu'il pourrait faire ses débuts en éliminatoire. Gallagher patinait avec les réservistes avec Struble. Donc, ça laisse présager que Jacky et Veleno entreraient dans la formation pour ce soir. Mais on sait que Saint-Louis, il cache ses cartes en série. Hein. Même, on le voit souvent dans les matchs à TVA Sports, on nous présente l'alignement avec les trios, les combinaisons que le Canadien a fournies. Puis sur la glace, c'est complètement autre chose. Donc, est-ce qu'on joue au jeu de la cachette en ce moment, difficile à savoir, mais du moins à l'entraînement, ça laisse présager Gallagher, Struble, ça très leur tour.
J'aime beaucoup Herbert Jackie à la place de Struble parce que les Sabres sont très physiques offensivement. Puis honnêtement, les Sabres, d'avoir un Joe Veleno, les Sabres sont quand même bons aussi au cercle des mises au jeu, d'avoir ce joueur de centre-là droitier en surplus. C'est pas les mauvaises décisions, je trouve. Je trouve que Martin Saint-Louis, puis c'est une décision audacieuse de remplacer Gallagher par Veleno. Saint-Louis n'hésite vraiment pas à prendre ces décisions audacieuses-là.
Ben moi, je pense que c'est une bonne décision. On a vu dans la série contre le Lightning, ça a brassé, mais c'était principalement dans les deux premiers matchs. Après, on s'est vraiment concentré sur le hockey. Donc, on peut entrevoir même chose avec les Sabres. Un petit peu d'intimidation au début. Jackie va être là justement pour calmer un peu tout le monde parce que selon moi, je regarde l'alignement des Sabres. Oui, on a des gros joueurs, mais Jackie reste, selon moi, le plus intimidant de la gang. Là. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes avec les Sabres, peut-être un Greenway qui oserait peut-être se mesurer à Jackie. Mais du côté de Veleno, je pense que c'est surtout l'aspect vitesse. Hein. Gallagher, on peut y donner tous les honneurs. Il travaille super fort, mais ça reste que la vitesse, c'est son gros point faible. Veleno va pouvoir amener de la vitesse avec une jeune équipe contre les Sabres. Moi aussi, je pense que ce serait une bonne décision là, de Martin Saint.
À part Tage Thompson, qui tu vas surveiller dans le camp des Sabres de Buffalo?
Ben, je pense que c'est Rasmus Dahlin, le défenseur numéro un qui peut faire vraiment une différence. On voit ce que Lane Hudson amène aux Canadiens. Dahlin, c'est la même chose, mais avec un physique encore plus imposant. Hudson est bon défensivement, là, mais Dahlin, selon moi, c'est une petite coche de plus quand même que Hudson. Tu l'as dit, Thompson, ça va vraiment être le joueur qu'on va cibler du côté du Canadien, mais Dahlin, il faut l'avoir à l'œil, sinon ça peut aller quand même assez vite.
Ta prédiction pour le match de ce soir, moi j'ai dit 4-3 Sabres en prolongation avec un tour de chapeau de Tage Thompson. Je pense que Thompson met son empreinte dès le premier match de la série.
Ben, c'est une bonne prédiction. Moi aussi, je pense quand même que les Sabres vont être capables de remporter ce premier match-là. Je vais aller avec un 3-2, on l'a vu dans la série contre le Lightning. Souvent,
le fameux 3-2.
Fait que je vais aller 3-2 Sabres de mon côté.
Excellent. Faites vos prédictions au 418-971-1021. Dans les autres séries, Golden Knights-Ducks ce soir, deuxième match. Je m'attends à voir les Ducks rebondir. Ça a été un match très serré, le premier 3-1 avec un but dans un filet désert. Puis un but quand même assez controversé sur un dégagement refusé, pas appelé, là, le deuxième des Golden Knights.
Ouais, moi aussi. Je pense que les Ducks, on en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine, un bon mélange de vétérans, de jeunes joueurs. Donc, moi aussi, je les vois répondre et niveler la série avant de retourner du côté d'Anaheim.
Dis-moi donc, qui va arrêter l'Avalanche du Colorado? J'ai regardé ça hier soir. Tabarouette, 5 buts encore, victoire de 5-2. L'équipe roule à fond de train, 6 victoires de suite en série. Je suis vraiment impressionné.
Ouais, tu sais, c'est rare que l'équipe qui termine première au classement général a autant de succès en série. Souvent, il va sortir assez rapidement. Mais là, je pense qu'il faut dire Colorado, là, c'est the real deal. C'est une équipe vraiment... Il n'y a aucun point faible. Si on avait à en pointer un, ce serait devant le filet. Mais là, même devant le filet, les Wedgwood, tous les gardiens de but qu'on a font le travail. Non, honnêtement, Minnesota, c'est un super beau club. Quinn Hughes, en ce moment, ça reste selon moi le meilleur joueur des séries.
Ah oui, il était exceptionnel encore hier. Il tourne sur lui-même, feinte tout le monde. Il est toujours en relance d'attaque. C'est un défenseur là, extraordinaire à avoir joué.
Mais tu sais, la profondeur du Colorado. Tu sais, un ajout comme Nicolas Roy là, qui joue dans dans ton bottom six, qui a déjà 3 buts depuis le début des séries. Vraiment, je ne sais pas qui va battre le Colorado. Je pense que c'est définitivement les favoris pour la Coupe en ce moment.
On termine avec ceci. Il y a plusieurs façons de faire une reconstruction. Il y a être patient. Il y a envoyer ses joueurs dans la Ligue américaine et les développer. Et il y a aussi être très chanceux. Et tiens, gardons ça, les Leafs de Toronto arrivent dans la dernière catégorie après avoir été chanceux pour Auston Matthews. Voilà qu'ils sont encore plus chanceux et qu'ils vont se permettre de repêcher Gavin McKenna parce que, ils ont gagné à la loterie hier pour le premier choix de la Ligue nationale.
Ah, je pense que tout le monde au Québec capotait quand ils ont vu ça, là, que les Maple Leafs de Toronto avaient le premier choix.
Les ennemis jurés.
Ouais, non, puis tu sais, ça pose des questions pour la saison prochaine. Je veux dire, notre division, elle est totalement mortelle. Parce qu'en ce moment, il y a 5 clubs de notre division qui ont fait les séries. C'est le maximum là, qui est possible. Là, l'année prochaine, bien évidemment, on s'attend à ce qu'une équipe comme la Floride, les Panthers, reviennent dans le portrait des séries. Là, tu ajoutes un autre premier choix à Toronto. Ça va être d'ailleurs leur troisième premier choix au total au sein de ce club-là avec Matthews puis Tavares. Non, honnêtement, puis Détroit n'ont pas fait les séries, mais ils ont fini 16e au classement général. Dans un format 1-16, ils auraient fait les séries. Il va y avoir beaucoup de déceptions l'année prochaine dans notre division parce que tous les clubs veulent faire les séries. Et c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Donc, non, c'est évidemment que nous, on est déçus là, que Toronto ait ce premier show total, mais je pense que ça va pimenter définitivement l'entre-saison pour Toronto et la saison
prochaine. Vraiment? Imaginez, chers auditeurs, auditrices, le Canadien de Montréal pourrait gagner la Coupe Stanley cette année puis même pas être assuré de faire les séries l'an prochain tellement que la division atlantique est compétitive. Ça va être complètement fou l'an prochain dans cette division. Ça va être la meilleure division du hockey, là, sans l'ombre d'un doute.
Alex Laram. Ben oui, on l'a. Ben oui, on l'a vu, tu sais, dans l'Ouest, c'est plus faible. Notre division, c'est la mort. Là. Ça va être quelque chose à suivre.
Alex Laramin, on se fait de quoi demain? On part l'émission avec toi. Pascal va nous faire deux, trois manchettes. Puis on part l'émission avec toi en sport. Hein? Pascal, ben, es-tu d'accord avec ça?
Je suis d'accord avec ça. La seule chose, c'est que vous décevez tellement de monde avec vos sabres, là. Un peu de. Mentez au pire, faites semblant que vous pensez que c'est le Canadien. Faites en sorte que ce soit plein partout et que les gens soient de bonne humeur.
J'aimerais ça, mais la logique veut que le premier match...
La logique!
Exactement. Nous, là, on est des analystes sportifs, Pascal. On analyse ce qu'on a.
Au moins, vous êtes rigoureux.
On est rigoureux, on fait nos lectures le soir, on écoute parle les demain. Matchs. On s'en reparle demain. On va tasser un petit 5 minutes Antonine Iacarini puis son caucus pour parler du Canadien de Montréal.
Avec plaisir.
Salut, Alex! À demain. Alex Laramie, chroniqueur sportif. Ouais, un traître
pour la nation. Tu vois, non, on coupe son micro.
On coupe. Salut Alex, là. Allô, pas un traître. Dans mon équipe. L'aime, c'est Alex, là. On part pas en pause parce qu'on accueille l'année du four.
Jusqu'à 14.
Ça va être après la pause parce que là, j'ai des comptes à régler. Ça rentre dans le studio de Boulevard puis ça écœure l'animateur. Coudonc, t'as-tu pris tes eyesight, toi, l'année du four?
On dirait 20. Elle travaille avec des policiers chaque jour. Elle apprend des meilleurs.
C'est voilà, ça. Voilà. Ah, je te dis, l'année du four.
On va pas une risée, là, quand même.
Ben non, du tout. Directrice aux affaires gouvernementales chez Catapulte Communication, elle vient jaser d'économie avec nous une fois par semaine. L'année, grosse annonce, là, à Mirabel, tout à l'heure. Christine Fréchette va être là. Mark Carney annonce pour Bombardier. Puis, on en parlait la semaine dernière avec toi, cette fameuse banque de la défense. On vient mettre un méchant bon pion dans la région de Montréal pour ça, là.
Effectivement, c'est quelque chose, je te dirais, qui était quand même attendu parce que ça l'avait coulé, la C-Series... Ça dit quelque chose à tout le monde, le Bombardier. Par contre, c'est québécois, c'est fait ici, avec les États-Unis quand même. Donc, est-ce qu'on pourrait se réconcilier à cet égard-là, réussir à travailler ensemble? Parce que c'est quand même 150 avions qu'on doit construire pour Air Asia ou Asia, comme tu veux que je le prononce. Mais c'est une grosse commande, on parle de milliards, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans tout le contexte où le prix de l'essence, le kérosène augmente, bien, cet avion-là est connu pour être moins exigeant en termes de consommation. Fait qu'on pourrait réduire les coûts, parce que c'est pas facile pour la compagnie asiatique en ce moment, qui est le fameux low cost. Là. De ce qu'on comprend, en fait, c'est que quand tu fais des vols moins chers, bien, c'est dur à un moment donné de venir rentabiliser tes vols, puis ça va pas super bien là, en ce moment en termes de rentabilité. Donc, on poursuit quand même, on va chercher justement une commande. Mais pour le Québec, avec la zone d'innovation, tu sais, Mirabel, Longueuil, Saint-Hubert, c'est sûr qu'on coche des cases. Et là, on envoie un signal fort. Les premières ministres, premier ministre du Canada qui sont là, qui annoncent ça, ça va être à peu près à 2 h cet après-midi. On va avoir plus de détails. Ce qui nous manque comme information, c'est le montant.
Oui, exactement. C'est
parce
juste
sinon, le reste des détails, on les c'est a quand ça. Même.
Puis t'en parlais, les États-Unis qui sont impliqués là-dedans. Puis on dit souvent, tu sais, il y a le discours public où Donald Trump dit toujours « Maudit Canada, vous nous volez notre économie. » Puis où Mark Carney dit « Je suis plus ami avec les États-Unis. Moi, je suis pour un Canada fort et une économie diversifiée. » Mais apparemment que dans les coulisses, ça se parle. Puis ça se parle de façon très respectueuse. Puis que ça avance. Donc, moi, quand je vois une annonce comme ça, je me dis que c'est vrai que dans les coulisses, ça se passe différemment de ce qu'on nous laisse transparaître. Ben oui.
C'est de la business parce qu'au final, tu sais, Trump a beau dire qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est des entreprises directement. Oui, il y a une question, tu sais, c'est fait en acier, là. Fait qu'il y a des tarifs et tout, mais dans des contrats en gré à gré ou peu importe comment on le négocie, là, tu es capable de te mettre des mesures, des clauses pour amoindrir. Même affaire avec l'industrie de l'automobile, là, c'est une économie intégrée où est-ce que l'auto va traverser beaucoup de fois la frontière avant d'avoir un produit fini puis d'être vendu. Une fois qu'on a dit ça, Trump, c'est Trump. Faut sortir de cette rhétorique-là plus politique fédérale où est-ce que, justement, on sort des phrases où est-ce que le Canada, c'est les méchants et tout. Puis, tu sais, ces temps-ci, hein, je te dirais qu'il est quand même moins sur notre cas. Là.
Il est occupé au Moyen-Orient, ça a l'air.
C'est ça, ouais. Il est embourbé dans une petite guerre. Là,
Ouais, là, il prononce plus le mot « guerre ». Parce que s'il prononce le mot « guerre », il est obligé d'aller au Congrès. Fait que là, il appelle ça de n'importe quelle façon.
Fait qu'en ce moment, le Canada, c'est, on n'est pas le pire épine dans son pied. Là. Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter.
Ah, fait qu'on prend en profiter pour aller chercher des affaires.
Ben là, on annonce quand même, comme je disais, une couple de milliards. Là, on va quand même être... ce sera pas des millions. Je pense qu'on va avoir une belle annonce. C'est quelque chose qui va peut-être pas avoir un impact sur monsieur, madame, tout le monde. Là, on se cachera pas que... Est-ce que Ginette, dans sa cuisine, va avoir un impact de ça? Non, mais c'est la position. C'est un argument de plus pour avoir la banque de défense ici à Montréal. Christine Fréchette l'a rappelé aussi. On veut l'avoir ici. C'est un naturel, puis on a les atouts pour ça. Donc, on vient cocher des cases.
Bonne question d'un auditeur. Il y a beaucoup qui dit, est-ce qu'il y a beaucoup de bien paraître dans cette annonce? Parce que si Air Asia fait faillite, il arrive quoi avec notre contrat?
Ben écoute, c'est sûr que c'est négocié dans les contrats. Là. Quand tu mets fin, par exemple, à tes opérations, ben là, c'est le créancier qui embarque là-dedans. Fait que c'est la loi plus des créanciers qui embarquent en ligne de compte.
Fait qu'il n'y a pas vraiment de risque.
Ben, il y a un risque parce que, ben écoute, tu perds la commande. Là. Tu perds l'argent. Si l'avion ne se livre pas, c'est tout est dans tout. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça pour faire un deal. Puis tu sais, au final, je me dis, s'ils vont de l'avant avec ça, c'est que ça ne s'est pas travaillé sur le coin d'une table la semaine dernière.
En
là.
Effet.
On attendait un momentum. Là, on l'a. Mais, tu sais, je pense que depuis le début de la semaine, on sait que ça va s'en venir mercredi. Puis ça se discutait avant. Là, tu fais pas une commande de 150 avions qui n'est pas prévue. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut être capable aussi de valider la crédibilité de l'acheteur, là, tu sais, pour la commande.
En effet.
Fait que, tu sais, j'imagine qu'on a pris ça en compte, mais après... Il y a toujours un risque dans tout, mais tu dis pas non à une belle commande comme ça.
Une commande comme ça.
Parce qu'il aurait pu le faire aux États-Unis. Il y a des avions équivalentes là, en ce moment. Fait que c'est un beau plus quand même.
Cool. Maison préfabriquée, le 4.0 de Samuel Poulin, nouveau ministre des Affaires municipales, pour donner plus d'accès à la propriété pour les jeunes. Il s'inclut là-dedans. Il dit, moi, j'ai 35 ans, j'ai pas vécu justement cet accès à la propriété qui était plus facilitant. T'en penses quoi? Honnêtement, j'ai de la misère à me positionner, moi.
Parce que les gens sont divisés, là.
Ben oui. Tu sais, je me dis, c'est du préfab.
Mais il y a un côté péjoratif, c'est pour ça que...
À la maison mobile, maintenant.
Oui, c'est ça, le mot.
La maison plein pied.
J'ai parlé avec des gens de son entourage, puis justement, j'étais comme, pourquoi vous avez utilisé le mot mobile? Tu sais, ça peut quand même avoir un aspect plus péjoratif. Tu sais, on pense des fois à nos parcs de maisons mobiles.
Ben, c'est ça. T'sais, moi, je me souviens, il y avait une personne que je coachais avec au hockey. J'allais le chercher. Il habitait dans le parc de maisons mobiles Ancienne Lorette. M'a dit, ben honnêtement, ça serait pas mon premier réflexe. Non.
Mais là, on est ailleurs. T'sais, les images qu'on voit, puis écoute, on a des entreprises québécoises comme Bonneville, par exemple, qui font du préfab. Puis c'est vraiment complètement différent de ce que tu as en tête. Je pense que le mot est justement galvaudé. C'est pour ça qu'on rajoute le 4. Après, si c'est juste une question de branding, vous en parliez tantôt, là. Écoute, on va le trouver un autre nom puis un
je
petit logo.
Je pense que tu es spécialiste là-dedans, donc tu vas être correct.
On va s'en occuper. Mais une fois qu'on a dit ça, je tiens à souligner quand même, c'est le ministre qui, depuis le nouveau conseil, qui fait une annonce de cette envergure-là. Tu sais, il n'y en a pas tant eu. Là. Tu sais, on a eu taxe de bienvenue, il était impliqué parce qu'il a pris la relève. Là, cette annonce-là avec les maisons préfabriquées ou mobiles, on va dire préfabriquées.
Ouais, préfabriquées,
ouais,
oui.
Préfab, là. On va nous-mêmes créer notre jargon, mais tu sais, il y a vraiment envie, puis tu sais, même quand il était député ou quand il était à l'économie, de faire bouger les choses dans le peu de temps qu'il y a. Puis ça, je pense que même si les gens sont divisés, écoute, c'est à la guise des municipalités puis des villes. Là. Fait que s'ils décident d'embarquer, et comme moi, je mets de l'argent à disposition... Arrangez-vous pour pas faire un moratoire comme à Lévis, là, tu sais, à gérer vos aqueducs puis toutes les infrastructures. Mais voici une façon avec quelque chose. Moi, tu me donnes ça, là, quelque chose de beau comme ça, tu sais. Pas de sous-sol, là, ça fait moins d'araignées, moins de bubites, là. Je suis bien contente. Un petit terrain, terrasse et tout, tu sais, ça fait quand
mais
même.
Mais c'est populaire, là, auprès d'une certaine génération, là.
On s'adapte. Je pense qu'il faut juste changer un peu ce schéma de pensée-là. Puis une fois que. La municipalité met les mesures en place pour justement garantir, c'est pas, oui, l'abordabilité, mais c'est vraiment juste offrir aux gens des options.
Ouais.
Parce que tu sais, tu viens libérer des logements, automatiquement, si
en
tu
effet,
donnes accès.
Là...
Non, c'est vrai.
C'est dans le discours de Christine Fréchette d'avoir une économie de propriétaire. Là, c'est le mot qu'on a utilisé quand on m'en parlait. Puis, tu sais, au final, c'est bien correct là, tu sais, d'offrir ça. S'il y a des municipalités que ça fit moins avec l'aménagement du territoire puis que la densification, ça va. Mais comme moi, je vous donne de l'argent. On ne demande pas de projet de loi pour ça. Tu sais, pas besoin d'aller s'embourber dans le côté parlementaire puis perdre du temps parce que c'est sûr que ça demande quand même une consultation et tout. Là, on est vraiment juste modification d'un programme. On verra la réponse qu'il va avoir, mais je pense qu'écoute, moi, si on me génère des idées comme ça puis que c'est somme toute positif, on va le prendre.
Ce que tu me dis, c'est laissons les municipalités et surtout laissons le marché se développer.
C'est
il y a une opportunité
c'est
là.
L'offre, la demande.
S'il se développe, il se développe. S'il se développe pas, il se développe pas.
Les mini-maisons, en ce moment, c'est ça. Là. C'est un autre mot, mais pratiquement pareil. C'est juste que là, je pense qu'on veut avoir un peu plus d'espace, un minimum de deux chambres.
Il y a un beau quartier
tout,
de mini-maison à Scott, en arrière de la cache à Maxime.
Ouais.
J'étais allé visiter justement. J'étais à la cache à Maxime. J'étais allé visiter. C'est très beau.
La seule chose, c'est de faire attention parce qu'il faut que ça reste abordable. Puis ça, il faut l'avoir en tête. Il y en a des mini-maisons qui sont très dispendieuses.
Oui. Mais c'est dans les critères. Là. On n'a pas tous les détails, puis on verra quelle forme ça va prendre, mais il faut que ça reste en bas de 350 000. Sinon, justement, tu n'auras pas accès nécessairement aux liquidités qui viennent avec.
C'est ça. Yes. En une minute, tu as retenu quoi de ta visite à l'Assemblée nationale hier et de cette première journée de Christine Fréchette comme première ministre dans une séance de l'Assemblée nationale?
Je dirais que les cinq, le 5, c'est le chiffre que je retiens. Là.
Okay.
C'est ce qu'on a vraiment mis de l'avant. On a 5 priorités. C'était le 5 mai. Puis l'élection générale, c'est le 5 octobre. Fait que si vous avez une chose à vous souvenir...
Le 3-5. 3 fois 5.
On est vraiment dans le côté économique. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Puis tu sais, oui, il y a des trucs en santé, des trucs en plus identitaire, mais c'est une fille d'économie qui essaie de venir grappiller justement une masse critique. Ce qui va nous manquer pour le après, puis je termine là-dessus, c'est d'aller chercher des châteaux forts pour réussir à avoir des candidatures où est-ce qu'on va, on va pouvoir entrer avec des candidats parce qu'en ce moment, on est un peu dilué partout. Puis ça fait en sorte que ça va moins se matérialiser après ça en... Je prends la majorité de ce comté-là.
Ouais,
et
c'est
je
en
suis
courant,
élue,
là, exactement.
Parce que tu vas avoir du vote populaire un peu partout. C'est ce qui est arrivé aux conservateurs. Si tu veux vraiment réussir à gagner un comté, ben il faut que tu sois le premier. Parce que le deuxième, quand même bien que tu es serré avec l'autre, tu ne l'as pas. C'est, on
t'es
est
pas
dans
à la système, SNAP, là.
Uninominal à un tour majoritaire, fait que ça fait en sorte que ben il faut que tu réussisses à aller chercher des comtés. Puis ben les couronnes, c'est pas mal l'endroit où est-ce qu'ils ont le plus de chance, à mon avis.
Merci beaucoup, Lanny Dufour, de t'être présentée avec nous en studio. On se parle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cool! Circulation, Pascal?
Oui, petit incident sur Dufresne-Montmorency Est à la hauteur du pont de l'île d'Orléans. La voie droite est partiellement entravée. Panne! Mais faites attention parce qu'il y a aussi les travaux pour le pont. Il y a les constructions, on ralentit, ça se réduit en termes de voie. Je pense qu'on peut se faire surprendre. Alors, je répète, Dufresne-Montmorency Est, hauteur pont de l'île d'Orléans, voie droite partiellement travée.
Double vigilance, les amis. Courte pause, il est de retour de congé de maladie. Lambert Drainville est avec nous après la pause. On va revenir sur cette guillotine qui a exécuté un faux Jean Boulet. Plainte du ministre hier déposée.
Ah, mais ce serait pas Jean Boulet, là, Jeff, pour
vrai. C'est vrai, à ta minute, il y avait des lunettes comme Jean Boulet, il y avait les cheveux frisés comme Jean Boulet, il y avait le teint comme Jean Boulet.
Mais on ne confirme pas du côté du syndicat que c'était réfléchi que c'était Jean Boulet.
Maudit média, on s'est encore trompé. Ah, je te dis, on est trop contre les syndicats.
J'ai juste scratché ma télé en la mettant dans son char. Elle m'a demandé un rabais.
En venant essayer ma paire de jeans, la fille m'a raconté sa colonoscopie. Les jeans lui faisaient pas.
La fille qui voulait mon lave-vaisselle a fini par se pointer. En Bixi.
C'est pas toujours facile de vendre, mais avec 70 points de collecte partout au Québec, c'est toujours facile de donner à Renaissance.
Vous cherchez à recruter ou à attirer la relève?
Le Salon Carrière Formation de Québec est le seul événement qui réunit en un seul lieu la formation et le marché du travail.
Rencontrez des dizaines de milliers de visiteurs, dont une forte présence de groupes scolaires prêts à découvrir leur avenir professionnel.
Grâce à une expérience immersive et interactive, connectez réellement avec vos futurs talents.
Positionnez votre organisation là où les décisions se prennent.
Réservez votre kiosque dès maintenant.
Rendez-vous sur saloncarrièreformation.com.
Et on accueille Marie-Lou qui va nous parler de l'événement Avantage Hyundai.
Pas de mon nouveau livre de recettes?
Oui, oui, si on a le temps.
Ah, OK. Ben, le Tucson Preferred 2026 à traction intégrale est offert en location à partir de 99 $ par semaine avec 0 $ d'acompte.
0 $ d'acompte?
Oui, et zéro stress avec une garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans, mais c'est pour un temps limité.
Ah, c'est tout le temps qu'on avait, merci. Bonne soirée tout le monde.
Et puis mon livre, lui? Location 60 mois au taux de 4,49 %. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Sartigaspa sur le lac. Réveillez vos sens avec nos spas, sauna finlandais, hammam, bassin d'eau froide et notre lac. Pour la fête des mères, offrez le ressourcement naturel aux mères qui vous entourent. Réservez votre expérience sur sartigaspa.ca.
Vous savez tous ces points PC Optimum que vous avez accumulés? Préparez-vous à les utiliser. Obtenez-en plus pour vos points lors de l'événement Prime d'échange de points de retour chez Pharmaprix du 8 au 13 mai. Faites vos achats en magasin et en ligne et obtenez jusqu'à 500 $ de rabais en échangeant jusqu'à 350 000 points. C'est 150 $ de rabais supplémentaires. Ça fait beaucoup d'articles gratuits, produits de beauté, parfums, essentiels de tous les jours. Allez-y, gâtez-vous! Ne manquez pas l'événement Prime d'échange de points chez Pharmaprix, une entreprise fièrement canadienne. Des restrictions s'appliquent, achats minimum requis, détails en magasin.
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin. Avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le pit stop avec Denis Gravel. 6h, le point de Max. Maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Iacarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlée en semaine. À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et TV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. De midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Ce sera le retour de Gravel par la suite avec Denis, Véro et Audrey. Audrey, qui on le rappelle, est au Grand McDo, puis ça dure toute la journée. Hein. Fait qu'aller à n'importe quel McDo de la région de Québec, en Beauce, à Chaudière-Appalaches, à Lévis. Vous allez contribuer au manoir Ronald McDonald, c'est tellement une belle cause.
Je viens de croiser Denis dans les corridors, puis ouais. Denis arrivait avec son McDo qui est allé chercher à la commande à l'auto d'Audrey. Il paraît qu'il parlait un peu, puis elle a dit « Hey, Denis, j'ai pas le temps, faut que je rentre dans mon temps, faut que t'avances. » Priorisait les auditeurs à Denis. « Denis, t'as passé là pour rien. »
Audrey va peut-être venir faire un petit tour justement en fin d'émission en studio. Dans la prochaine heure, ben, on va avoir Lambert Drainville, chroniqueur politique et vulgarisateur d'actualité. Étienne-Alexandre Beauregard aussi va venir s'asseoir avec nous, ex-rédacteur des discours de François Legault. Et on va terminer le tout avec Marie Langlois, PDG de la SDC Montcalm, Société de développement commercial. On va parler de ce tunnel du tramway confirmé hier, mais ça va amener des nouveaux travaux. Puis les commerçants ne sont pas au courant. Ça, c'est très, 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 très décevant. On va immédiatement rejoindre Lambert Drainville et on va commencer avec cette alliance ouvrière qui a simulé l'exécution de Jean Boulay. Puis là, ben beau nous dire « Hey, ça représentait pas Jean Boulay, la poupée qu'on avait construite. » On s'entend, il y a des lunettes, il y a les cheveux frisés, il y a le teint comme Jean Boulay. C'est Jean Boulay.
Écoute, ça en est quasiment ridicule. Là, t'sais. A défendu sa mise en scène lundi, assurant d'ailleurs n'avoir jamais confirmé que l'effigie représentait le ministre du Travail. Sérieusement, là, c'est vraiment prendre le monde pour des zinzins. Je vais quand même saluer la FTQ. J'ai déjà été critique de la FTQ, Magali Picard, sur tes ondes, qui ont été le seul syndicat à quand même prendre un gros bras de distance avec ça, puis en condamnant en fait les actions qui avaient été posées pour les autres centrales syndicales, dont la CSN, on parlait plutôt de se dissocier, là, tout simplement, là, et non pas de remettre en question.
Non, en effet, tu fais bien parce qu'il y a une différence entre condamne puis je me dissocie. Condamne, c'est que c'est inacceptable. Puis je me dissocie, c'est bon, c'est pas moi, mais.
Ouais, exact. T'as tout compris. C'est exactement ça. Mais honnêtement, moi, je trouve ça triste pour les syndicats eux-mêmes.
Oui.
T'sais, je veux dire, je me mets dans la peau d'un gars là, qui paye ses cotisations. T'sais, pas un militant syndical actif. Là. Juste un gars que la cotisation passe son chèque de paye depuis plusieurs années. Peut-être que dans ce cas-ci, il avait décidé de faire quelques heures de voiture pour se déplacer samedi dernier à Montréal pour participer aux manifestations. Puis ce qui ressort, c'est ça. OK? que là, on guillotine un ministre en papier mâché. C'est de rien que de ça qu'on parle. On ne sait même pas c'est pourquoi, au final, qui était là. On ne sait pas. Il n'y a rien de tout ça, de leurs revendications qui est sorti. En tout cas, moi, je serais bien déçu de voir que c'est ça qui fait les manchettes. Sachant que, tu sais, l'opinion publique, là, envers le support des syndicats, a déjà été beaucoup plus élevé qu'il l'est dans les dernières années au Québec. Là,
clairement.
En novembre 2025, c'était 54% des Québécois qui disaient qu'ils avaient une opinion défavorable des syndicats. Puis pourquoi je serais pas content si j'étais un membre d'un syndicat? Ben c'est l'espèce d'incompréhension qui semble y avoir que l'opinion publique, là, l'opinion publique dans la lutte syndicale, là, elle est névralgique. Là. On l'a vu dans le cas des médecins, là, quand l'opinion publique a changé de bord, là, puis que les gens se sont dit « Oh, le gouvernement va vraiment trop loin avec sa méchante loi 2 », Hey, le dossier, as-tu pris toute une autre tournure, mon cher Jeff?
Hey, mais hein, ça a fait sortir autant Christian Dubé que Lionel Garment.
Ben, tu sais, l'opinion publique en négociation entre le gouvernement et les syndicats, c'est majeur. Ça permet, dans le cas où le gouvernement a l'opinion publique de son bord, ben, d'être beaucoup plus patient dans les négos, de laisser les négociations se prolonger, d'espérer que l'autre partie, l'autre côté flanche en premier, d'être beaucoup plus inflexible sur le type de demande. Quand tu as la population qui crie sur les réseaux sociaux, qui n'est pas contente, qui fait pression sur le gouvernement, généralement, le gouvernement n'est pas en position de force. Fait que, on dirait que c'est comme communication 101 pour moi. Quand ce genre de geste-là arrive, là, pis évidemment, on n'a pas encore parlé de l'aspect violent de la chose, là. On en parlait avant d'entrer en onde, là, mais...
Ben écoute, si tu permets, on va entrer dans l'aspect violent, puis on va écouter les commentaires de Jean Boulay hier à son arrivée à l'Assemblée nationale, et vous allez voir, t'sais, c'est à prendre au sérieux une démonstration de violence de cette nature-là.
Ça m'a rendu extrêmement sensible, là. Je me suis senti menacé dans mon intégrité. Les gens de ma famille, des personnes autour de moi, c'est sûr que ça a un impact. On ne peut pas admettre des événements de cette nature-là qui incitent à tout ce que vous pouvez imaginer, mais fondamentalement de la violence. Et quand tu es la personne qui est représentée, qui fait l'objet d'une décapitation, ça fait mal.
Mais, hein, et petit cours d'histoire, Pierre Laporte est décédé justement d'un enlèvement politique. C'était au début des années 70 au Québec. Et là, dernièrement, aux États-Unis, ben, il y a des gouverneurs qui se sont fait clairement assassiner, notamment au Minnesota. Alors,
faut faire attention avec ces choses-là, parce que même si la personne qui a fait la poupée en papier mâché puis qui l'a guillotinée avait pas l'intention de, voulait jouer avec une image et quoi que ce soit, il y a des images qui auraient pu servir encore plus puis qui n'auraient pas été violentes de cette façon-là. Puis quand on ne met pas de limites, elles sont toujours repoussées. Puis ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a fait de la petite papier mâché, poupée, je ne sais pas quoi, qui va passer dans une action violente. Mais des fois, il y a des gens fâchés, émotifs de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent dans ces dossiers-là, qui, à un moment donné, la soupape explose. Puis quand ils ont vu des gestes comme ça caractérisés de violents, bien, peuvent passer à l'acte.
Je suis tellement d'accord avec toi. On n'est pas à un Denis Lortie près au Québec, tu sais, dans le sens que ça peut arriver quelqu'un qui, justement, souffre présentement mentalement, qui voit cette image-là puis qui dit « Hey, sais-tu quoi? M'aller l'exécuter, moi, boulé, parce que ça n'a pas d'allure ce qu'il fait avec moi et avec les syndicats. »
Oui, puis on est tellement entouré de violence à tous les niveaux, que ce soit à l'international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs au Canada, ici au Québec. La violence envers les élus sur les médias sociaux ou dans la vraie vie, on en a parlé combien de fois, les gens qui débarquent devant chez Éric Lefebvre, qui débarquent devant la maison de ministres, de députés élus pour les intimider. T'sais, à un moment donné, si on ne dénonce pas ce genre de comportement-là, quand est-ce qu'on va le faire? Là, t'sais, où est-ce qu'on va se rendre avant de dire « Ouais, là, ça n'a aucun maudit bon sens. » Et au final, tu sais, t'as beau t'obstiner, là, quand tous les partis de l'Assemblée nationale, incluant le parti qui défend les syndicats à la vie, à la mort, là, on se rappellera, avait défendu les syndicats quand leurs propres électeurs étaient confinés chez eux lors de la grève du transport en commun à Montréal.
Ouais.
Quand tous les partis, dont celui-là, disent ça n'a aucun bon sens, il devrait y avoir des excuses, ben, on dirait que j'aurais envie de poser la question aux gens qui supportent ce genre de geste-là. Comment, qui est du bon côté de l'histoire? Là? Qui est du bon côté de l'histoire quand tous les partis, incluant ceux qui sont d'ardents défenseurs des syndicats, pensent la même chose, que c'est over the line La question est lancée.
Puis j'ai quelque chose de bien, bien le fun dans la vie qui malheureusement est arrivé parce qu'il y a des grands sages autour de moi. Puis c'est si j'inverse la situation, puis cette fois-ci, ça touche toi. Mettons que t'es Jean Boulay, puis c'est toi, la petite statue en papier mâché, je sais pas comment le dire, la marionnette, la patente, là, puis qu'on te met sur la place publique sous une guillotine. Mais je pense que n'importe quel individu réagirait de façon assez intense à ça, mais surtout un syndicat. J'ai l'impression qu'ils s'accrocheraient là-dessus en disant « Vous ne pouvez pas mettre notre président de syndicat ou la personne qui nous représente en papier mâché, la guillotiner. » Inverse la situation. Qu'est-ce qui se passe?
Mais on ne sait pas. C'est même pas comme plausible. On dirait que ça pourrait jamais arriver. Là, puis ça n'arrivera jamais. Mais
ça arrive des fois, malgré tout.
Oui, ça arrive. Puis c'est important de se demander, de se mettre dans les des autres. Mais on dirait que c'est tellement hardcore, ça va tellement loin que on dirait que je vois même pas l'équivalent inverse être possible. Puis c'est pour ça qu'effectivement, quand on se dit, ben l'inverse, c'est tellement élevé que l'inverse est absolument pas possible. Je pense qu'on est rendu effectivement qu'on doit se poser ces questions qu'on se pose présentement.
En effet, on change de sujet. On revient à l'Assemblée nationale pour le discours de Christine Fréchette hier. On avait Charles Milliard en entrevue dans Marceau le matin. On l'a questionné concernant la clause dérogatoire, le fait que Christine Fréchette veut immédiatement reconduire cette clause-là pour la loi 96, donc la loi sur la protection du français. Monsieur Milliard a patiné sur un méchant temps et Christine Fréchette en a profité pour vraiment enfoncer le clou hier dans son discours. On l'écoute.
La grande majorité des Québécois, ils veulent protéger le français au Québec. La grande majorité des Québécois veulent aussi protéger la laïcité. On doit donc prendre tous les moyens nécessaires pour protéger le français et la laïcité au Québec. Et ça passe nécessairement par l'utilisation de la clause dérogatoire. Notre nouveau gouvernement espère que tous les parlementaires seront derrière lui pour défendre nos lois, pour défendre les intérêts du Québec. Ici, c'est l'intérêt supérieur du Québec qui est en jeu.
Alors voilà, donc je te fais une prédiction, Lambert Drainville, il va avoir un sondage peut-être la semaine prochaine ou d'ici la fin de la semaine sur les intentions de vote des Québécois et le vote francophone que les libéraux avaient justement été cherchés. Donc on était passé d'à peu près 9% à 21%. Va retourner aux alentours de 12-13% parce que les libéraux nous démontrent jour après jour qu'ils se foutent bien du nationalisme québécois.
On verra. Je vais y porter, comme tu le sais, à chaque fois une attention particulière au niveau du vote francophone. Je ne sais plus quoi dire. Quand il vous a donné votre entrevue, Jeff, il y avait-tu son jackstrap? Jean Milliard, étais-tu au courant ce matin?
S'il y avait son jackstrap, explique-moi
ben
oui, ça.
C'est parce que quand tu es assis sur la clôture, aussi longtemps, tu es mieux de te protéger les parties sensibles. Parce que ça peut finir par faire mal à la longue. Non, sérieusement, c'est... Écoute, j'écoutais les mordus de politique, Jeff, là, puis je vais faire une petite passe à la palette à mon ami Sébastien Bovet. Là, mais tu sais, c'est un panel, là, bon, tu les connais, là, avec des conservateurs, mm-hmm. d'anciens libéraux ou d'anciens caquistes, péquistes, machin, là, NPD. C'est rare, là, qu'ils s'entendent, là, comme sans équivoque. Sur un sujet, c'était le cas là, à propos de la position du Parti libéral sur le renouvellement de la clause dérogatoire sur la loi 96. Et même Sébastien Bovet, qui se veut l'instance neutre là, de ce panel-là, à un moment donné, a lancé la question à Michel Courchesne, qui est une ancienne libérale. Coudonc, Mme Courchesne, Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas quand les Québécois francophones représentent à peu près 80% du Québec, tu veux gagner une élection, ça fait 8 ans que tu es dans l'opposition. Puis là, tu n'es pas capable de prendre une position avoir une position qui est claire, qui est limpide sur un enjeu qui touche les Québécois, puis sur l'enjeu qui fait en sorte que les libéraux sont sur les banquettes de l'opposition depuis 8 ans. La raison pour laquelle les libéraux se sont retrouvés dans cette situation-là, c'est que les Québécois, à un moment donné, se sont dit, ben, qu'est-ce que tu veux, ce parti-là, on ne peut pas leur faire confiance sur les enjeux identitaires. Ils tergiversent. Ils essaient de ménager la chèvre et le chou. Ils ne sont pas capables de... Puis tu sais, Charles Milliard est arrivé en se drapant d'un nouveau nationalisme libéral réinventé en citant Robert Bourassa. Là. je m'excuse, là, mais Robert Bourassa, il l'a invoqué à de multiples reprises
ben
la
oui.
pour la, loi, sur, la clause dérogatoire sur une langue, sur une loi d'ailleurs visant à faire la promotion du français, allant même jusqu'à en perdre des députés à l'époque. Mais il s'est tenu debout, puis il l'a fait. Puis Robert Bourassa, c'est vu comme un des grands chefs de l'histoire du Parti libéral. J'ai juste beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi c'est si compliqué de dire « ben écoutez, on est tannés, nous autres, là, d'être sur les banquettes de l'opposition. On aimerait ça, après 8 ans, là, avoir une shot pour gouverner. Pour ça, il faut que les Québécois... » C'est pas juste la loi 96, c'est pas juste la loi 21. C'est les enjeux identitaires plus largement. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce parti-là? Et malheureusement, comme je disais, leur marge de manœuvre, elle est nulle. Et le fait qu'ils ne semblent pas comprendre ça... C'est comme tellement politique 101 pour moi là, que ça en est pratiquement frustrant. Ça en est pratiquement frustrant, Jeff.
D'ailleurs, Lambert Drainville, on va aller réécouter justement l'excellente capsule que tu avais faite sur tes médias sociaux. J'invite tous les gens à aller l'écouter. Lambert, t'es en feu, t'es en forme. J'adore. On se reparle vendredi.
Go Habs, go!
Salut, à soir, ça commence. Lambert Drainville, partisan du Canadien, vulgarisateur et chroniqueur politique ici à Boulevard 102. On lui parle à chaque mercredi et vendredi.
Mais si le Canadien perd, Lambert n'avait pas son chandail du Canadien aujourd'hui.
Oh, alors là, on va
le mettre dans la liste des possibilités du pourquoi.
Il va falloir lui parler de ça. Hey, on vient d'avoir quelqu'un qui est arrivé en studio.
Oui.
Qui c'est ça? Qui c'est ça?
Ça sent quelque chose, genre le McDo.
Ah, ouais!
Les frites!
Ben oui! C'est Audrey Pinchot qui revient du grand McDo. Puis, on a-tu battu notre record?
Hey, c'était tellement le fun. Honnêtement, on est arrivé très haut. Écoute, on a fait presque 2800 de midi à 13h au drive seulement. Et on s'entend que c'est des commandes autour de 10$. Fait que ça veut dire que c'est du monde en tabarnouche qui sont pointés.
T'as dû avoir chaud là, parce que c'était toi qui étais dans la fenêtre.
L'équipe là-bas est formidable. Pour vrai, là, j'ai travaillé au McDo longtemps quand j'étais jeune. Ouais. Mais ça fait une couple d'années que je fais le McDo. Puis je veux dire, ils sont efficaces partout. Là. Mais tu sais, le McDo, le Bourgneuf, il est nouveau. Là.
Ouais, ouais.
Puis l'équipe est nouvelle aussi.
Rodé au corps de tour.
Et... Tu dis, c'était écœurant.
C'est cool.
Fait que non, ça a vraiment été un beau midi. Puis évidemment, ça se poursuit toute la journée.
Mais
ce soir, allez souper là. Je veux dire, vous pouvez commander des petites chaussettes, des petits items de plus. Moi, j'étais encore bien speedée de mon midi. Là.
À chaque fois, tu
ça
lèves
paraît
le
pas.
Bras. À chaque fois, tu lèves le bras. Ça sent la frite.
Hey, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que
j'adore
je sens.
Ça.
Ah, c'est vrai que je sens, mais c'est sûr que je sens.
Mais ça sent bon.
J'étais à côté de la friteuse.
Ça va donner le goût à tout le monde aujourd'hui.
Mais ça m'a fait rire parce que les auditeurs ont répondu à l'appel. Il y en a quelques-uns qui sont passés. Puis, hey, merci pour ce que vous faites. Puis je t'allais, voyons, merci pour ce que vous faites. Vous venez de faire le détour pour le grand McDo. Merci pour ce que tu fais.
C'est ça, exactement.
Fait que, non, c'est, écoute, c'est leur premier grand McDo sur le Bourgneuf.
C'est fun.
Puis ça se passe vraiment bien. Puis ce soir, Audrey, la gérante, me disait qu'il va y avoir des maquillages pour enfants, des ballons, toutes sortes d'affaires.
C'est
ils
le
vont comme, ils vont rendre ça encore plus festif. Fait que si vous voulez passer, le, prendre les flots à garderie, puis aller au McDo, là, je veux dire.
Un joyeux festin, ça fait tellement plaisir.
Hey, puis tout rentre maintenant, sa facture, là, quand on parle du don, où vous pouvez le donner monétairement, vous pouvez acheter justement des items.
Hey, les chaussettes moyen, sont écœurantes.
Oh, sont tellement cute!
Mais tu?
Oh, j'en prends chaque année. Moi,
ben
je les aime assez. Là.
Oli, le gavard, c'est la même chose. Ah, il se promène avec dans la maison.
C'est,
il est heureux.
On s'entend.
Heureux.
Là, c'est une paire de bas à 6$, là, mais c'est parce que c'est un 6$ qui va 100% pour le manoir Ronald McDonald. Fait comme toi puis moi, je trouve que c'est rien. C'est un don. Là,
ben, exactement. Puis on le rappelle, c'est tellement une belle cause, le manoir Ronald McDonald, parce que, je vais prendre un exemple ici à Québec, là, au CHU de Québec, au CHUL, ça dessert l'Est du Québec en entier. Mm. Donc, une famille du Saguenay qui a un enfant qui est atteint de leucémie, ben, le parent va être logé à côté de l'hôpital, gratuitement. Il a accès à une cuisine, il peut se faire à manger.
C'est d'immenses casse-tête qui tombent.
Moi, j'ai de la famille. En fait, la moitié de ma famille vient du Saguenay, l'autre moitié de la Côte-Nord. Je peux t'en parler du fait d'être loin, mettons, d'un centre-ville où tu as un hôpital spécialisé quand la santé va pas bien. Puis ça sert vraiment. Tu sais, ce matin, je voyais plein de témoignages. Chaque année, tu réalises plus avec qui tu étais mis sur Facebook. Puis je voyais plein de témoignages de famille. Tu sais, hey, c'est le grand McDo, nous autres, ça nous a vraiment aidé dans telle situation. Fait que je pense qu'on réalise pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas un effort, là. Je veux dire, déplace ton cheat day, là, mais là, aujourd'hui, puis va te chercher une frite, coudonc.
Moi, je m'en vais m'entraîner tout à l'heure, comme d'habitude, de 5h30 à 6h30, puis après ça, je passe à me chercher un McDo, là, c'est clair.
Tu sais, c'est mercredi.
Mon gars, une pratique de football. McDo pour tout le monde!
C'est mercredi. Couper sa semaine avec un repas de moins à faire, faire plaisir à tout le monde en famille, faire un don, puis en écoutant le Canadien.
Hey, puis le menu est rendu élaboré en tabarnouche, là, honnêtement, on va se le dire. Tantôt, je voyais des affaires sur le menu, puis j'étais comme tabarnouche. Nous autres, on servait pas ça dans le temps.
Genre le McVG qui est super bon.
Autant dans la bouffe que les breuvages. T'es rendu avec des twists de Sprite, le framboise bleue. C'est vraiment... fait que, bref, Passez, vous cherchez un McDo pour le match ce soir, puis ça vaut la peine, ça donne des dons. C'est une journée par année, puis en plus, vous vous gâtez.
Ben oui, puis ça prend soin des familles qui ont besoin, justement, de soutien et d'aide dans un moment où c'est très, très prenant pour eux mentalement et émotionnellement.
Là, je vous aime, mais mes croquettes vont être froides. Tu
vas manger.
Tu juste à te lécher le bras, Audrey.
Hey, ouais, non, je sens vraiment. Oui.
Mais ça sent bon. Tu nous donnes le goût.
De toute façon, nous, on a Étienne-Alexandre Beauregard qui s'en vient. C'est l'ex-rédacteur de discours de François Legault. Il va nous faire le comparatif entre moi, quand j'écrivais le discours de François Legault, puis le discours que Christine Fréchette a fait hier. C'est quoi les différences entre les deux individus? Y a-t-il vraiment une coupure qui s'est faite à la CAQ ou non? On va savoir ça. Avec quelqu'un qui avait les deux mains dedans, comme dirait l'autre, pas les mains en friteuse ou dans les mecs croquettes. Peut-être qu'il va sentir meilleur qu'Audrey Pinchot.
Possible. Fort possible.
Ben, je dirais impossible.
Mais il s'en vient avec notre studio.
On en jase.
Je préviens, on jase.
Hey, merci, gang. Merci de partager votre opinion. 418-971-1021. Continuez toujours de le faire à l'émission On en jase sur Boulevard 101 de midi à 14h. Votre émission d'actualité. On a une belle discussion justement avec un auditeur sur ce qu'on voyait comme violence pour nous dans des gestes syndicales. On le répète pour moi, Pascal, et pour Lambert Drainville, qui était notre chroniqueur juste avant la pause. Simuler l'exécution à la guillotine du ministre du Travail, ben, on trouve ça violent.
Faut mettre une limite.
On trouve que ça dépasse justement une première limite, puis que ça incite peut-être les gens à aller vers la violence physique réelle. Donc, voilà pourquoi on se permet de parler de la situation, puis on se permet de prendre la défense du ministre du Travail, Jean Boulet. À la météo, eh bien, c'est la flotte pour aujourd'hui. C'est 8 degrés avec de la pluie. Demain, on a 60 % de possibilité d'averse, risque d'orage en après-midi. C'est 10 degrés. 13 degrés alternant soleil et nuages pour vendredi et 14 degrés alternant soleil et nuages pour samedi. La pluie sera de retour avec nous dimanche. Pascal, avant de parler avec Étienne-Alexandre Beauregard, quelles sont les nouvelles principales à retenir dans l'actualité?
Bien, la CAQ fait parler parce qu'entre autres, hier, discours inaugural de Christine Fréchette, mais aujourd'hui, c'était la première période de questions. Donc, elle a été talonnée sur le bilan du gouvernement Legault. On pouvait s'attendre à rien d'autre que ça. Les oppositions étaient prêtes pour ne pas faire oublier les 8 dernières années caquistes. Ouais. Et on a martelé de toutes parts, on a pris la parole pour dire aux Québécois de se souvenir de ce fiasco qui est pour eux la CAQ. Et la CAQ a devancé les travaux liés au tunnel du tramway. On doit en parler parce que ça nous concerne. Puis aujourd'hui, c'est vraiment la manchette partout des travaux d'excavation en prévision du tunnel. On veut faire passer le tramway, vous savez, sous la colline parlementaire. Et dans les prochaines semaines, on va commencer les travaux plutôt qu'en 2027. Et c'est ce qu'on a annoncé hier par le ministère des Transports. Dans le montant de 55 millions de dollars, ben c'est prévu à l'enveloppe de 7,6 milliards de dollars. Donc, c'est autorisé dès maintenant. Beaucoup de gens sont allés voir les résidents de Montcalm qui disent « OK, attendez, là, on comprend, mais si c'est devancé, nous, on s'attend à quoi? Comment ça va être perturbé? » Puis on n'a pas de réponse à ces questions-là. Alors, beaucoup prennent la parole également dans les médias. Benoît Charrette, le ministre des Transports, est incapable de préciser combien d'argent a été englouti jusqu'à présent dans le projet de troisième lien. Pour lui, on peut revenir avec quelque chose d'un peu plus concret dans les prochaines semaines. Mais encore là, c'est un peu nébuleux. Mais on dit que le troisième lien aurait un corridor central sans enthousiasme ni adhésion. Alors, l'appel d'intérêt sera lancé dans quelques semaines. C'est très nébuleux, là, Jeff. Je veux dire...
Oui, ça ressemble pas mal à ce qui est depuis le début, le troisième lien. Ouais. C'est-à-dire, il y aura des appels d'intérêt, il y aura des choses, puis finalement, on n'aboutit pas.
Puis je vais terminer avec une nouvelle toujours reliée à la CAQ parce qu'on fait beaucoup d'annonces. Québec veut des quartiers de maisons mobiles 4.0. Mm-hmm. Donc, on veut un accès à la propriété dans cette crise du logement, puis de cet accès à la propriété-là. C'est le nouveau ministre des Affaires municipales, Samuel Poulain, qui prend le dossier, veut multiplier la construction de nouveaux quartiers. C'est beaucoup des maisons unifamiliales préfabriquées de type plein-pied, donc c'est pour ça qu'on dit maisons mobiles, qui seront mises de l'avant.
On en a parlé avec Lanny Dufour, chroniqueuse économique chez nous. Ça va être disponible sur blvd.fm. On accueille en studio avec nous Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault et chercheur à l'Institut Cardus. Étienne-Alexandre, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres.
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, quelle différence t'as senti dans le discours de Christine Fréchette hier par rapport à ceux que François Legault avait l'habitude de nous faire depuis bientôt 8 ans?
Bien, c'est sûr que Mme Fréchette a un style qui est le sien. Hein. Disons que moins vernaculaire que M. Legault, qui souvent était très terre-à-terre quand il parlait. Mais je pense que c'est intéressant de regarder les grandes priorités, parce que moi, c'est vraiment ça. Là. J'ai écouté le discours avec mon petit pad de notes pour essayer de voir c'était quoi les grands axes. Puis bon,
si
je pense
on comprend,
que...
là, excuse-moi de te couper, là, tu comparais les discours que tu rédigeais à ceux de Mme Fréchette.
Exactement. Puis là, c'est un peu gênant, parce que je connais très bien celui qui les écrit. Je vais faire attention.
Mais là, on va le dire. Non, mais... Il est pourri, c'était pourri.
J'ai pas dit ça.
Mais tu volé ta job.
C'est moi qui est parti. Mais on va pas trop aller là-dedans. Pour vrai, sur les grands axes, je pense que vous en avez parlé avant. Là, j'ai écouté en m'en venant. Ouais, elle a parlé d'économie, elle a parlé de coût de la vie, d'infrastructure, de services, d'identité. Mais je pense que là où il y a un virage, puis c'est un peu une tension entre les deux. Hein, vous l'avez dit, là, les oppositions aujourd'hui essayent de la beurrer un peu en disant c'est la même chose que depuis 8 ans. Puis elle a commencé son discours hier en disant c'est une nouvelle vision, on a des nouvelles ambitions. Puis il y a un peu de tension parce que dans les priorités, on s'entend beaucoup de choses qui étaient là dans le gouvernement d'avant.
Au début.
Puis ben, beaucoup de choses aussi que c'est normal. Quand tu es un gouvernement, tu es à 5 mois des élections. T'sais, quand elle nous dit ah, le Québec va avoir une nouvelle politique internationale, bien ça, c'est en préparation depuis des années. Ouais. Fait qu'il y a des limites à ce que tu peux changer. Cela dit, moi, le gros changement que j'ai observé, c'est dans les relations avec le gouvernement fédéral, avec les municipalités, on parlait des nations autochtones aussi. Bref, envers ce qui n'est pas le gouvernement du Québec, là, on s'entend, Mme Fréchette a beaucoup le mot partenariat à la bouche. Ça, je pense que c'est une de ses marques à elle, là, si on veut définir le style par rapport à M. Legault, par rapport aux syndicats aussi. On se rappelle que c'est une des grandes priorités du gouvernement à l'automne passé, un peu de resserrer la vis aux syndicats. Ouais. Là, malgré les dérives dont vous parliez juste avant, ça a l'air que c'est plus trop dans les orientations du gouvernement. Là. D'ailleurs, M. Plamondon a même reproché à Mme Fréchette de ne pas avoir réagi assez fortement par rapport à ceux qui ont décapité la pauvre marionnette de M.
Ouais,
Boulay.
Mais là, bon, on va rappeler au PQ qui sont allés au congrès de la FTQ aussi. Là,
exactement.
À un moment donné.
Essaye de jouer un peu sur les deux tableaux là-dessus. Mais là, il y a certainement une différence.
J'ai justement deux questions pour toi là-dessus. Premièrement, sur la stratégie de l'opposition, de comparer Christine Fréchette à François Legault alors qu'on voit un style complètement différent. Si tu se plantais comme les conservateurs se plantent encore à la Chambre des communes de comparer Cornet Trudeau?
Bien, c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça va dépendre de ce que les Québécois voient ou pas en elle. Parce qu'il y a deux chemins. Mettons, puis surtout si on est le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec en ce moment, on peut dire elle est pareille comme Legault. Ceux qui n'aimaient pas Legault, n'allaient pas voter pour elle. Mais à l'inverse, par exemple, Mme Fréchette qui est perçue comme étant moins sur le côté nationaliste, moins sur le côté à droite que, par exemple, son concurrent M. Drainville dans la course à la chefferie, bien, on voit déjà que les deux partis, hein, M. Plamondon, il avait fait son appel aux nationalistes, M. Duhaime invitait les caquistes à couper leurs cartes. Fait qu'ils jouent un peu aussi sur les deux tableaux, eux aussi, en disant « Attention, elle n'est pas comme Legault. » Fait que si vous avez aimé Legault, vous pouvez nous aimer aussi. Fait que je pense qu'il va falloir qu'ils choisissent leur track, en fait, parce que tu peux pas dire les deux en même temps. Autrement, ça n'aura pas l'air cohérent.
Parler de deux côtés de la bouche, mais en même temps, c'est profitable. C'est pas tout le monde qui suit ce genre de discours-là. Mm-hmm. Puis allons dans les technicalités. Toi, quand tu rédigeais ça, y a-tu des mots? Tu dis ça, là, on martèle. As-tu trouvé les mots qui vont définir Christine Fréchette? Une table que tu dis, ouais, là, ça, on a usé de communication publique à ce niveau-là.
Je dirais que s'il y a un verbe qui se répète dans 3 phrases de suite, ça veut dire que les gens essayent de vous le faire comprendre. Oui, il y a un bout, je pense, quand on parlait d'économie, j'ai entendu le mot « protéger » à quelques reprises. Je pense que dans le contexte international actuel, c'est un peu ça l'image qu'on essaye de projeter.
On a peut-être choisi là, de mettre
Je pense que c'est un mot qui était bien choisi. Puis aussi, quand on termine en disant « il ne faut pas se diviser, il faut rester fort », pour un gouvernement en exercice, d'abord, c'est toujours bon d'avoir cette image-là, parce que c'est toi qui es le protecteur, de fait, puisque c'est toi qui es au gouvernement. Comme je disais avant, le mot partenariat, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau dans la bouche de Mme Fréchette qu'on n'entendait pas chez M. Legault. Je pense que c'est à dessein aussi de le nommer. Puis c'est ça, il y a ces mots-là qu'on essaye de placer parce que quand on le répète assez souvent, les gens, ils s'en rappellent. Puis souvent, ça va arriver dans le topo du journaliste après. Là.
On a parlé beaucoup de clauses dérogatoires aussi. Ouais. On en a parlé pour justement la loi 96 sur la protection du français. Mais là, ce matin, c'est Haroun Bouazi du Québec solidaire qui est arrivé avec une idée, ma foi, je sais pas où il a pêché ça. Je te fais entendre ce matin, on avait Paul Saint-Pierre Plamondon sur nos ondes et chapeau, tu vas entendre dans l'extrait, chapeau à Max Larouche qui a proposé justement une bonne réplique pour Paul Saint-Pierre Plamondon. On écoute ceci.
Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Haroun Bouazi de Québec solidaire qui va déposer un projet de loi pour encadrer l'utilisation de la disposition de dérogation? C'est comme un parti souverainiste qui veut moins de pouvoir pour le Québec?
C'est exactement ça. Très, très bonne analyse. Si vous me permettez,
j'emprunterai votre ligne pour le reste de la journée.
C'est dit, on charge 10%.
C'est exactement ça. Nous sommes indépendantistes et c'est pour ça qu'on veut que le fédéral invalide nos lois démocratiquement élues. C'est invraisemblable.
Dans toute cette histoire de la clause dérogatoire, là, les oppositions font des passes à palette à Christine Fréchette et là, dans ce cas-ci, à Paul Saint-Pierre, Plamondon aussi, parce que les libéraux qui veulent pas se tremper dans la loi pour le français, là, Québec solidaire qui nous sort une affaire sortie complètement du champ gauche, la voie est libre là, pour le nationalisme de la CAQ.
Bien, honnêtement, oui. Puis c'est drôle parce que je me disais ça en m'en venant. Je pensais hier, quand elle a annoncé que le premier projet de loi de son gouvernement, ça allait être de réaffirmer la clause dérogatoire sur la loi 96 qui protège le français. Je me disais, ouais, mais ça me semble c'est un peu étrange. Mais ça me semble c'est pas tant que ça. Si tu veux que ça soit ça ton premier geste symbolique, je sais pas à quel point ça va lever. Puis là, on dirait qu'ils ont appelé Québec solidaire et qu'ils sont arrangés avec le gars des vues. Parce que là, M. Boisy, là, il est arrivé, là, sa bande, là, il a fait une passe à la palette, là, tac, top corner. Puis là, on voit que ça va être un gros débat. Puis ça me faisait penser aussi à M. Duhaime qui a sorti son livre il y a deux, trois semaines sur l'autonomie, où il dit « Moi, si je suis élu, je vais passer un projet de loi René Lévesque puis mettre la clause dérogatoire sur toutes les lois du Québec pour que ce soit juste le Québec qui décide de ses lois. » Là, tout d'un coup, on voit que la clause dérogatoire, alors que c'était souvent une espèce d'accessoire pour d'autres débats, hein, quand on parlait de français, quand on parlait de laïcité, là, ça devient en soi un débat. Puis ça, je pense que ça va être intéressant, puis ça permet de voir le positionnement des uns et des autres. Là, comme vous dites juste avant aussi, M. Milliard est un peu embêté. Là.
Ben oui, il est embêté, certainement. On l'avait en entrevue hier matin. Puis, bien honnêtement, il patine. Faut y répéter trois fois notre question pour qu'il ose se mouiller un petit peu. Fait que c'est jamais bon, ça, pour un chef de ne pas être capable de répondre clairement à une question, que ce soit des médias ou de l'opposition.
Non, ça, c'est sûr que c'est la chose qui te tue parce que, encore une fois, quand t'es pas clair sur ton message, quand il y a de l'ambiguïté, bien, les autres peuvent te faire dire ce que tu veux pas forcément dire. Puis là, vous voyez, on parlait juste avant du troisième lien, puis ça, je pense, quand on parle, là, j'aime pas ça revenir là-dessus, mais je veux dire, quelque chose qui a tué la CAQ ben raide dans la région, c'est ça.
C'est
parce
clair.
Que... quand t'es pas clair, tu vas en souffrir, tu sais.
Ben surtout de revenir sur tes pas, là, parce que tu sens que la soupe est chaude, là. Je pense que c'est là où ça tue encore plus en politique, là, dans le dossier, on l'a vu. Oui. Mais c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ils se mettent de côté sur certains enjeux pour se préserver pour la campagne électorale puis les débats, parce qu'ils voient que les adversaires sont coriaces.
Oui, mais dans le cas de M. Milliard, je pense qu'il n'y aura pas le choix de répondre à cette question-là. Je pense qu'à peu près tout le monde a vu qu'il y avait au moins une zone de vulnérabilité là. C'est pas
ils
pour
vont
rien
sauter
que.
Dessus.
Ben oui, puis même vous, quand vous l'invitez, c'est sûr que vous lui posez la question. Tout le monde veut savoir la
c'est
réponse.
C'est clair.
Fait que lui, il va pas pouvoir s'en sortir. Puis d'ailleurs, je vais dire que si j'étais à la place de son caucus anglophone, je pense que j'aurais réfléchi à deux fois avant d'y faire la passe. Parce que moi, je trouve la position de M. Milliard au début était quand même assez intelligente. Hein. Ce qu'il disait, c'est il y a des choses que j'aime pas dans la loi 96, donc je vais les enlever. Puis après ça, je mettrai la clause dérogatoire pour que ce soit juste le Québec qui décide. Fait que ça, c'est une position qui est assez floue pour faire une campagne. Là. On sait pas exactement
c'est
qu'est-ce
vrai.
Qu'il met pas.
C'est une position qui est assez floue pour faire une campagne.
Ou plutôt assez claire pour faire une campagne, pardon, mais qui est quand même
non,
assez
mais...
floue pour ménager
moi,
le caucus.
Ça, tu me donnes beaucoup d'outils.
Non, mais sans blague, sans blague.
Ouais.
Il a rédigé les discours, lui.
Mais il retournera pas cette année, je pense, avec une phrase comme
non,
ça.
Non,
puis nous, on le garde encore plus.
Ouais. Étienne, Alexandre, c'est toujours un bonheur de te parler, honnêtement. Quand t'es à Québec, tu passes nous voir en studio.
Je traverse la pluie pour vous autres.
Ah, oh, c'est trop gentil. Sinon, ben, quand t'es à distance, on a des bons sujets, tu me fais signe, on en parle via la plateforme Zoom. C'est vraiment très intéressant d'avoir ton point de vue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, merci à vous deux.
Ça fait plaisir. Courte pause et par la suite, ben ouais, on va terminer en parlant des matchs de hockey de ce soir. C'est ce soir, Pascal CV, que ça se passe. C'est le premier match de la série canadien. Sabre de Buffalo, c'est à 19h sur les ondes de TVA Sport. À surveiller le grand Tage Thompson, 6 pieds 6, Pascal, un joueur de centre.
6 pieds 6.
Très costaud.
C'est-tu dans les très, très grands, dans les plus grands de la Ligue
oui,
nationale?
Oui, c'est dans les plus grands que la Ligue nationale. Écoute, les Sabres ont sûrement deux des plus grands joueurs à leur position.
Les anciens joueurs de basket?
6 pieds 6, mais je ne sais pas, frère, je vérifie. 6 pieds 6, Tage Thompson, un joueur de centre, excellent joueur, 81 points dans la saison régulière. Il a 7 points, 2 buts, 5 passes en 6 matchs de série. Et ils ont le grand défenseur Logan Stanley, 6 pieds 7, 231 livres. Ils sont allés chercher à la date limite des transactions des Jets de Winnipeg.
Ça, c'est
lui, c'est un gars défensif.
C'est un grand mince, si je comprends bien.
Oui, c'est un grand mince, c'est exactement. La grande question qu'on se pose chez le Canadien, c'est est-ce que Cole Caulfield va enfin sortir de sa torpeur, le Canadien qui a battu Tampa Bay, mais Caulfield n'a marqué qu'un but dans la série en avantage numérique dans le quatrième match. Ce soir, 21h30, pour les couches tard, il y a également les Ducks d'Anaheim qui visitent les Golden Knights de Vegas. C'est 1-0 dans la série pour les Golden Knights. Match emporté 3-1. Et je vous rappelle qu'hier, la l'Avalanche du Colorado a pris les devants 2-0 dans leur série en venant à bout du Wild du Minnesota 5-2. 3 points pour l'excellent Nathan MacKinnon. Un but, 2 passes. Pascal, on se parle demain?
Sans faute.
Excellent. Je vous laisse avec Gravel dans le retour. C'est Denis, Audrey et Véro qui s'amènent à l'instant même. Merci d'être à l'antenne de Boulevard 101. À demain, guys.